peut, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, peut-être sur les transports, vu la diversité des moyens de transport. Donc, on va commencer par Béatrice Vaudet, donc, qui est présidente de la Fédération Écosystème M, que j'ai rencontrée par le biais de Jérôme Perdry. Je vous invite à vous rendre à la tribune, qui est maire adjoint d'une petite commune qui s'appelle Ayen, A-Y-E-N. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. En fait, ce que je l'avais rencontré à Bordeaux lors d'un colloque sur l'innovation territoriale. Et je pense qu'en la matière, il s'agit bien d'une innovation. Mais vu également le passé de Mme Vaudet, qui a travaillé à la SNCF de nombreuses années, je pense qu'on est en plein cœur du sujet par ailleurs. Donc je vous laisse la parole.
Je le prends, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc je répète bonjour à tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc effectivement, moi j'étais responsable des gares régionales à la SNCF pendant de nombreuses années. Et c'est une entreprise que j'ai quittée il y a un peu plus d'un an pour me consacrer aux territoires, et en particulier les territoires de moyenne et faible densité, donc les petites et moyennes, les petites villes et les villages, pour les problématiques, pour essayer de trouver une solution. Au problème de mobilité que rencontrent notamment ces territoires, et sachant que nous sommes face aussi à un problème d'énergie, puisque à l'origine la question qui m'était posée, c'est comment les personnes qui n'ont pas d'autre alternative à la voiture vont-ils faire face à l'augmentation du coût de l'énergie à venir, qui devrait être multiplié par 3 d'ici les 10 années à venir. Voilà. Et donc, effectivement, les gens les plus touchés sont ceux qui n'ont pas d'alternative. Ce sont les gens les plus isolés et qui sont qui n'ont pas d'autre choix que de rester dans les campagnes et qui, en plus, ne peuvent plus bénéficier du moindre transport collectif. Parce que comme il n'y a personne à transporter, les entreprises de transport délaissent aussi ces territoires. Et alors voilà, donc on a monté Écosystème. Écosystème, c'est un T'M à la fin. Ça veut dire système de mobilité éco-durable. Et donc on a monté, pour tester Écosystème, on l'a monté dans un petit village de Corrèze, à Ayen, qui est à 23 km de Brive-la-Gaillarde. Et on l'a lancé Écosystème en 2014. Sur la partie covoiturage de proximité. Et donc, je vais vous montrer un petit film qui relate la manière dont les choses fonctionnent, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une petite vidéo pour expliquer comment ça marche. Voilà.
Les jeunes à la mission locale sont exclus de la mobilité, il n'y a plus aucun transport collectif. Comment on fait pour se déplacer, pour se rendre à un rendez-vous professionnel quand on habite Saint-Cyprien, Segonzac, Ayen, qu'il n'y a plus de bus, qu'il y a juste un transport à la demande qui est deux fois par semaine avec des horaires qui sont très contraints? Comment nous on s'organise aussi en zone rurale pour essayer d'avoir accès à cette mobilité qui devient un peu problématique?
Le service de covoiturage, adossé à une monnaie locale, mise en place à Ayen, a pour base logistique la maison des services publics.
C'est un lieu où on peut y trouver de l'information de premier niveau, où Tiffany et Marilène sont au service de la population pour parler habitat, emploi, énergie, culture, transport, prestations sociales, pour un meilleur service aux populations en zone rurale.
Pour covoiturer, il suffit de s'inscrire et la relation s'établit via les mails d'offres et de demandes de transport.
C'est un système convivial, de solidarité active, c'est un système énergique. Voilà. On met en relation des gens qui sont exclus de la mobilité et on ne peut pas s'imaginer l'impact positif que ça peut avoir sur une zone rurale qui est dépourvue des services de transport collectif. Alors aujourd'hui, il y a 50 personnes qui sont sur la base de covoiturage. Donc c'est modeste, mais au regard de 740 habitants, on peut considérer qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sentent concernés. Voilà. Ça génère environ 3000 à 3500 km depuis le début du système. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est adossé à une monnaie locale, que voilà, et qu'il y a des fichiers kilométriques, voilà, qui permettent aux gens de rétribuer leur chauffeur.
Je viens pour voir s'il n'y aurait pas une proposition de covoiturage.
Alors, Madame Sourisseau pour aller à Brive.
5 centimes d'euros le kilomètre. Le chauffeur sera rétribué en bons qu'il échange contre des yaka, la monnaie locale.
Donc aujourd'hui, descendre à Brive avec le système de covoiturage, ça revient à 1 euro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'initiative commerciale ou mercantile derrière. C'est bien un système de simple, mis en place par la collectivité et le collectif, qui permet à des gens de se déplacer à moindre coût sur un territoire.
Bonjour,
bonjour.
Jérémy.
Je viens pour le trajet pour Brive.
Bon, ben c'est très gentil. Hein. Merci. Alors, en route, aujourd'hui, il fait pas beau. Hein.
Non.
Oh, puis alors, vous vous êtes approché. Hein. Oula. Parce que ça rend service à plein de gens qui ne conduisent pas ou qui ont des problèmes comme moi aujourd'hui, des problèmes de voiture. Parce qu'habituellement, je suis surtout chauffeur. Hein, j'ai des voisines qui ne conduisent pas, j'ai des voisines qui sont âgées, qui ne veulent plus prendre la voiture, des amis à Ayen aussi qui ont des problèmes de reprendre la voiture. Donc je sers souvent de chauffeur, mais aujourd'hui exceptionnellement, je suis en panne de voiture et j'ai besoin d'aller à Brive. Donc Jérémy, qui allait à Brive à ce moment-là, a accepté de m'emmener. Aujourd'hui, il paraît que demain, il va faire du soleil.
Je serai à Toulouse. Moi, j'ai plutôt la fibre écolo, on va dire. Donc j'étais à l'origine très attiré par l'aspect... un petit peu moins de gaspillage et moins d'émissions de pollution, etc. Mais après, ce que j'ai pu me rendre compte à l'usage, c'est que c'est vraiment quelque chose, un élan de solidarité qui est très important, surtout pour un territoire comme celui-ci, où l'entraide est indispensable pour maintenir la vie, le dynamisme local. Et en plus, le petit plus, si j'ai envie de dire, c'est cette monnaie locale qui permet de pouvoir faire ses achats auprès des commerçants locaux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à mettre en valeur.
Et les commerçants du partenaire peuvent ensuite aller échanger contre des euros. Le collectif associatif leur fait un chèque et leur remet l'équivalent, puisque un yaka égale un euro.
Bonjour, je vais vous prendre une baguette de campagne, s'il vous plaît. Oui. Alors, un yaka et les 5. Au revoir, bonne journée.
On ne dépend moins des uns et des autres. On n'est plus, disons... on n'est plus libre parce que, bon, on donne des papiers. On est moins redevable que quand on demande à quelqu'un de vous emmener. C'est pas toujours évident. Hein. On peut faire plaisir, mais enfin, il ne faut pas en abuser.
Ce projet a reçu le soutien de la SNCF, qui voit dans ses réseaux le moyen d'amener des gens vers les gares. Ayen est en expérimentation, Aix-sur-Vienne est sur les rangs, et on y pense sérieusement sur le plateau de Mille Vaches.
L'idée, ça a été de développer ce que l'on appelle chez nous le porte-à-porte et de proposer un service complet au voyageur pour lui faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son point d'arrivée. Donc, on a évidemment le train, mais avant le train et après le train, l'idée, c'est de lui proposer des services qui vont lui permettre de faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à la gare, ensuite de prendre la gare. Donc, c'est vraiment... du bout à bout, voilà, hein, du transport de porte à porte.
Le covoiturage a pris l'essor que l'on connaît sur de grandes distances. Sur le plan local et la proximité, la formule s'affine. Ayen, village durable, y travaille.
Voilà. Donc ça, c'était effectivement... Comment je ferme ça ? Voilà. Alors après, comment je retrouve la... Ah, la présentation écosystème est là. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est. Je trouve que je le veux en plein écran. Alors là, c'est quoi ? C'est l'affichage. En plein écran. Voilà, ça y est. Ok. Donc voilà, donc vous avez vu, donc, alors ce petit film, en fait, ce n'était pas la vidéo que je voulais vous montrer, je voulais vous mettre, mais finalement, elle dit toute la même chose. Ça, c'était une vidéo qui a été réalisée par le village d'Ayen directement.
Et donc, qui montre notamment, effectivement, que la SNCF était aussi à l'initiative de ce projet, puisque c'est elle qui a soutenu et financé ce lancement. C'est un dispositif, en fait, qui a comme objectif de redynamiser l'économie locale en passant par le covoiturage, donc la création de la monnaie de la mobilité. Ces fameux fichets kilométriques se transforment en bons énergie qui sont acceptés par les commerces locaux. Donc en réalité, c'est tout un dispositif associatif qui s'appuie sur la population locale et chacun est véritablement acteur du dispositif puisque cette monnaie locale qui est adossée à l'euro, parce qu'au bout du compte, les commerçants retrouvent les euros, mais en réalité, elle stimule tout le monde parce que tout le monde cherche à avoir ses bons énergies et favorise évidemment cette solidarité dans la population. Alors en fait, on n'invente rien, parce que enfin, je sais très bien que le covoiturage de proximité, ce covoiturage, il existe déjà largement dans toutes ces campagnes, mais en fait, il existe, mais sous forme de tribus, c'est-à-dire les gens, ils le font entre eux. Ce sont des familles ou des voisins, mais voilà, il y a toujours des exclus de tout ça. Et d'ailleurs, et ce qui était très intéressant dans le cas d'Aïen, c'était précisément que lorsqu'on a distribué tous les flyers au moment du lancement, on a mis des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, et la première personne qui a téléphoné est une dame qui n'a pas d'âge, qui est entre 40 et 60 ans, mais qui vit dans la campagne, dans une ferme qui ressemble à un ferrailleur, et qui est totalement isolée, dénommée la sorcière par les habitants d'Aïen. Et c'est la première qui a téléphoné à la maison de service au public pour disposer justement d'une opportunité de déplacement. Et donc, ce qui démontrait bien quand même le phénomène de désenclavement de ce type de personnes, voilà, qui sont vraiment terriblement isolées. Alors, la SNCF... Donc la SNCF aujourd'hui d'ailleurs me demande de travailler d'autant plus, elle est devenue partenaire d'écosystème parce que j'ai quitté SNCF pour développer écosystème et effectivement se préoccupe notamment d'utiliser écosystème, comme le disait Thierry Merlot qui l'évoquait tout à l'heure dans cette petite vidéo, pour développer le porte-à-porte, c'est-à-dire s'assurer que quand les gens arrivent dans une gare, ils puissent aussi bénéficier d'autres dispositifs pour aller jusqu'à chez eux, et inversement que les gens se groupent pour aller jusqu'à la gare et réduire ainsi d'ailleurs les espaces de stationnement qui prennent quand même notamment dans les villes moyennes ou même les villes plus importantes une place considérable. Voilà. Donc voilà. Donc du coup je vais tout de suite. Alors comment est-ce que je passe à la... Voilà, c'est ça. Donc alors, je vais juste vous rappeler. Je refais juste un petit panorama des gares très très simple. Hein. Simplement, il y a 3000 gares. Plus précisément, il y a 3029 gares. Bon, j'ai mis 3000 gares, ça me simplifie la vie. Gare et halte. Mais alors, c'est déjà la première lecture qu'il faut avoir, c'est que quand même sur 3000 gares, on a quand même 36 000 communes et près de 2600 établissements publics de coopération intercommunale à terme. Et du coup, c'est la proportion qui est intéressante. On a une gare ou halte pour 12 communes, et voire 1,2 par groupement. Enfin, ce qui veut dire que quand même, il y a quand même un maillage du territoire qui est relativement complet. Hein, en termes de maillage, je ne vous ai pas dit en termes de desserte. Hein, je me tourne vers Ruffec. Attention à ce que je dis. Mais en termes d'opportunités de desserte, on ne peut pas dire qu'on soit en manque de gare. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et alors après, il y a trois catégories de gares hein, qui ont été bien identifiées. Il y a les 128 plus grosses gares, celles dites d'intérêt national, les gares de catégorie A. Donc il y a au moins 250 000 voyageurs dans ces gares. Mais en réalité, alors ça c'est vraiment les gares gérées par Gares et Connexions, l'activité SNCF qui s'occupe de toutes les gares. Et en fait, Gares et Connexions s'intéresse surtout aux 30 premières gares de ces 128 premières gares. Voilà. Donc, parce qu'il y en a 30, les 30 premières gares qui ont 5 millions de voyageurs par jour sont évidemment les plus juteuses pour l'activité gare. Alors après, la deuxième catégorie de gares, ce sont les gares B. C'est celle où il y a moins de 100 000 voyageurs, hein, au moins 100 000 voyageurs par jour. Et enfin, les gares d'intérêt local, bah c'est celle qui m'intéresse, enfin, qui intéresse en tout cas ces territoires, les fameuses gares C, et qui sont les petites gares qu'on voit ici et là, dont un paquet ferme. D'autres peuvent se renouveler, parce qu'avec le développement des tram-trains, il y a aussi des créations de gares, hein, il y a un peu de tout. Et alors, donc en gros, vous voyez, sur 3000 gares en France, il y a 1750 haltes. Et qui dit halte dit absence de personnel commercial. Donc une halte, c'est juste un point d'arrêt. Il peut y avoir une gare, mais sans personnel. Voilà. Il y a juste des trucs automatiques quand il y en a. Voilà. Donc après, donc du coup, moi, c'est évidemment les gares qui nous intéressent, comme je vous disais, c'est les gares d'intérêt local, parce que ces gares-là, enfin, elles assurent la desserte de voies qui elles-mêmes sont en concurrence directe avec les autres modes de transport. En particulier, bon, il y avait déjà des concurrences importantes avec la voiture, naturellement. Alors, les cars Macron ont un petit peu achevé de les enterrer, si je puis dire. C'est-à-dire que les cars Macron, effectivement, coûtent beaucoup moins cher, sont beaucoup plus souples, très rapides. Et donc, évidemment, enfin, les cars Macron et les cars tout court, d'ailleurs, hein, pas exclusivement Macron, mais c'était ces déploiements de ce type de cars, de mode de déplacement, a vraiment un succès bien plus important que le TER. Et donc, le TER est encore plus déserté, si bien que du coup, effectivement, il y a une baisse très importante, encore plus, de fréquentation de ces trains, et ce qui conduit effectivement à des fermetures de voies. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réductions d'offres. Et si ce ne sont des fermetures, en tout cas, ce sont des réductions d'offres assez importantes. Donc, vous voyez, même côté TGV avec Ruffec, hein, c'est ça, c'est une réduction d'offres, hein, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, les lignes... Et ces lignes qui ne sont pas très fréquentées, ben elles sont d'autant plus difficiles à maintenir que depuis la régionalisation, donc il faut savoir quand même que ce sont les régions hein, qui financent, les régions, la région Nouvelle-Aquitaine qui finance le TER, mais elle finance également tout ce qui est transport, tous les transports régionaux, voire départementaux, quoi, depuis la réforme. Elle a élargi son domaine de compétences à tous les transports de son territoire, tous les modes de transport. Donc il est certain que les coûts de maintenance et d'entretien, notamment non seulement des voies ferrées, parce qu'en termes d'infrastructure, il faut naturellement entretenir les voies, mais également du matériel, sont tellement élevés que s'il n'y a personne dans le train, il y a quand même un problème hein, évident quoi, de rentabilité. Et par ailleurs, il est bien évident qu'un car qui est complètement plein, bah, il a effectivement des émissions, il développe des émissions de gaz à effet de serre beaucoup moins importantes au nombre de personnes transportées qu'un train qui est quasi vide, quoi. Ça, c'est certain. Donc, de toute façon, en plus, même en termes purement environnemental, c'est aussi un vrai problème. Donc, effectivement, il y a des fermetures de lignes qui se programment, bien que, et effectivement, ce qui pose naturellement des grosses déceptions et des grosses perturbations au sein des communes concernées. Et la question, elle se pose de savoir ce qui va se passer avec ces gares. Et donc, ça, c'est tout un discours qui est d'ailleurs assez récent, parce que c'est des discussions que j'ai eues ces dernières semaines avec la SNCF sur l'avenir de ces gares qu'il était tout simplement envisagé de raser, alors qu'en même temps, ces gares, elles restent des lieux de service, d'information pour le transport, pour tous les transports, parce qu'il peut y avoir toujours des autocars, mais également des taxis, du covoiturage, de l'autopartage, des vélos, etc. Il y a tout un tas de choses possibles. Et donc, en fait, ces gares, elles restent quand même, aujourd'hui d'ailleurs, c'est le terme utilisé, on ne parle plus de pôle d'échange, mais de plateforme de mobilité durable. C'est plus dans le coup, mais c'est plus vrai aussi parce qu'effectivement, il y a une diversité de modes de transport à connecter. J'en prends le terme connexion, hein, c'est un terme qui est très utilisé quand on parle de transport. Et donc, cette connexion, elle se fait aujourd'hui avec tous les dispositifs, toutes les alternatives au transport possible. Voilà. Et donc l'idée la perspective de supprimer une desserte ferroviaire ne doit pas conclure forcément à la destruction de la gare. Donc ça, c'est un sujet qui se développe après avec chaque commune et avec qui il faut évoquer la possibilité de concentrer dans le bâtiment qui a une vocation transport à l'origine, la lui maintenir en proposant notamment de développer, de rester l'interconnexion de tous les modes qui restent. Voilà. Bon. Alors après, il y a une question de dimension du bâtiment, il y a une question d'importance du bâtiment. Alors après, il faut aussi se préoccuper de savoir ce qu'on fait des surfaces qui ne sont pas forcément utilisées. Et donc là aussi, tous ces bâtiments qui représentent un réseau, toutes ces petites gares régionales qui sont quand même un réseau très important pour le territoire, là c'est le dernier point, peuvent effectivement devenir un vrai... le vrai support d'une politique régionale pour le développement et la dynamisation du territoire. Alors là, juste un petit rappel sur les enjeux de la mobilité de proximité. Hein, ça, ce sont des travaux. Moi, j'ai travaillé pendant un an et demi, d'ailleurs, avec le Shift Project sur les sujets de... Shift Project, c'est une grosse association de Jean-Marc Jovovici, pas si vous connaissez, mais qui a monté un groupe de travail sur les problématiques de transport, de déplacement dans les zones rurales et de moyenne et faible densité. Et donc, voilà. Donc, dans le milieu rural et périurbain peu dense, donc il y a le sujet qui intéresse l'écosystème. Le budget transport, c'est quand même 15% du revenu des ménages, qui est quand même relativement conséquent déjà. Ce sont des ménages qui sont très fortement motorisés naturellement, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc 4 ménages sur 5 ont une voiture, 1 ménage sur 3 en a 2, tout simplement, il n'y a pas d'autre solution, donc c'est important d'avoir une voiture. Et le coût annuel d'un véhicule, 2600 euros par an, parce qu'on part du principe que les gens s'achètent plutôt des voitures d'occasion, eh bien, qu'on prenne pour la moitié des frais de carburant. Donc effectivement, c'est 1300 euros par an. Ben, si demain il triple, ça va être quand même un vrai sujet. Donc comment, effectivement, peut-on optimiser tout ça? Alors après, donc l'impact en plus des déplacements sur l'environnement, donc sur les gaz à effet de serre, 82% des trajets font moins des trajets de tous les déplacements font moins de 20 km quand même, et les voitures sont occupées par 1,22 personnes, donc on voit que vraiment ça reste très faible, et un déplacement sur deux fait moins de 5 km. Donc vraiment le taux de déplacement, et alors que le taux de déplacement à la mobilité locale, c'est 98,7% de l'ensemble des déplacements qu'on peut compter sur un territoire. Voilà. Donc, et les transports sont responsables de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc voilà tout un tas de données qui conduisent à rechercher la manière dont on peut optimiser tout ça, sachant que le véhicule individuel, lui, n'a aucune alternative dans ces secteurs-là. Il n'y aura jamais de train qui va desservir chaque bourg et chaque hameau. C'est même pas, et il n'y aura pas de car non plus. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Et par ailleurs, bah, l'efficacité énergétique, c'est un vrai enjeu, parce que si on ne trouve pas de solution, donc au-delà du fait que tous les constructeurs de voitures sont en train de travailler sur le moteur à 2 litres au 100, il est quand même, donc ça va effectivement réduire les émissions de taux de gaz à effet de serre, mais c'est vrai qu'il est très important quand même aussi de modifier finalement les comportements et de trouver un moyen de partager tous les modes, tous les véhicules qui permettent cette mobilité. Donc je reviens sur les gares. Donc les gares, et là, donc là, c'est des sujets partagés avec la SNCF, bien sûr. Les gares elles-mêmes, elles peuvent contribuer à cette dynamique. Alors c'est vrai que les gares, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas toutes. D'abord, elles ne sont pas toutes en très bon état, pour commencer. Donc ça commence par ça. On a des bâtiments qui sont parfois vraiment franchement vétustes. Mais par ailleurs, mais tout de même, elles représentent. La gare, c'est un bâtiment, puis ce sont des emprises foncières. Donc c'est quand même un ensemble. Qui peut être optimisé et qui peut devenir un élément un levier de développement aussi pour les collectivités où elles se situent. Et de ce point de vue-là, c'est en ça qu'elles peuvent contribuer à la dynamique locale, hein, en ayant effectivement, comme on le disait tout à l'heure, donc des services dans la gare, de telle manière à apporter plus de services à la population locale. Par ailleurs, elle peut aussi soutenir l'implantation d'entreprises. Et d'ailleurs, la SNCF a des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, hein, pour les territoires où elle se retire. Hein. Donc, de toute façon, il y a des prêts d'honneur, des choses comme ça qui se font, hein, à la SNCF, pour les petites entreprises. Donc, c'est dans les gares ou les emprises. Et puis, elle peut aussi favoriser la valorisation touristique des territoires. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a effectivement ce genre de tous ces sujets. Et alors, c'est surtout donc un levier. Ces gares, elles représentent un levier. Pour la mobilité, développer cette mobilité partagée. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt le mode ferroviaire et les gares peuvent contribuer à réduire, ont pour enjeu de réduire les gaz à effet de serre, donc en développant cette mobilité partagée. Par ailleurs, pour se faire face à la problématique du bâtiment vétuste, avec ses gros murs, etc., qui n'est pas du tout adapté en réalité à la modularité dont on a besoin aujourd'hui. On peut tout à fait mettre en place des haltes éco-durables. Ça, dans mes activités anciennes à l'SNCF, c'est moi que j'avais mis en place, j'ai mis en place la gare IKEA. C'est pour ça que je parle de ça, parce que c'est un sujet que je connais très bien, et donc qui se fabrique et qui arrive sur camion et qu'on met en place en 10 jours. Voilà, donc on pourrait tout à fait imaginer que dans chaque région, il y ait ce type de gare, la gare du Limousin, la gare Poitevine, la gare machin, parce que, évidemment, une gare éco-durable, par définition, elle est réalisée par les entreprises locales, parce que pour des questions aussi d'empreinte carbone. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'avoir un dispositif beaucoup plus souple pour pouvoir s'adapter, une question d'adaptabilité. Et puis après, il y a tout l'aspect purement numérique. Alors ça, on l'évoquait tout à l'heure aussi, mais la partie numérique, bah, évidemment, c'est l'information pour connaître tous les dispositifs possibles pour aller d'un point A à un point B en utilisant tous les modes existants. Mais encore le numérique, faut-il qu'on puisse y avoir accès quand on est dans les zones où il n'y a quasi pas de couverture ? Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même un vrai sujet du moment, puisque le gouvernement s'engage quand même à se prendre des engagements pour assurer la couverture de tout le territoire. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc l'engagement sociétal. Bah, l'engagement sociétal, on évoquait la hausse du prix de l'énergie. Donc c'est vrai que le numérique, au-delà du numérique, c'est pas parce qu'on a accès au numérique qu'on peut se déplacer au mieux, pas partout en tout cas. Et puis, donc on a trois enjeux dans l'aménagement et dans l'usage de la nouvelle vocation de ces gares. C'est l'emploi pour les populations périurbaines, l'accès aux services, et puis la maîtrise de la facture énergétique pour contenir, en tout cas, son évolution pour les gens qui n'ont pas d'alternative. Voilà. Alors après, comment ça peut se décliner ? Effectivement, par l'implantation de services, le regroupement de services à la personne, regrouper toutes les nouvelles formes de mobilité, et puis implanter dans la gare différents types d'activités en accord avec la collectivité. Et alors c'est là qu'Écosystème prend du coup son essor côté SNCF, parce que Écosystème est une association qui est consacrée à la mobilité. Et donc, ce que me demande aujourd'hui d'ailleurs la SNCF, c'est de les aider justement à utiliser Écosystème pour se substituer finalement aux services qu'il y a actuellement dans les gares en activité qui vont fermer. Donc l'idée, c'est d'intégrer Écosystème dans ce dispositif, en maintenant éventuellement d'ailleurs des agents de la SNCF qui accompagnent Écosystème dans un premier temps. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire, donc Écosystème, vous avez vu le petit film. En fait, Écosystème, c'est un dispositif, c'est un concept d'assembleur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est bien sûr que tout le monde, qui a un véritable rôle donné à la fois aux citoyens et aux collectivités et aux commerces locaux surtout, parce que comme on sait que dans ces territoires, les populations ont tendance à s'en aller, à migrer vers les grosses agglomérations, et ben du coup les commerces eux-mêmes ferment, non pas seulement d'ailleurs parce que les jeunes s'en vont, mais également parce que les grandes surfaces se déploient à une vitesse grand V et que la concurrence est telle que finalement les grandes surfaces tuent vraiment les commerces de proximité. Or, les commerces de proximité, c'est le lien social. Donc si on fait rien pour ça, c'est un drame total pour les territoires. Et le plus grand drame, c'est quand même la fermeture des commerces, avant même le départ des jeunes, hein, ça c'est clair. Et donc du coup, l'importance écosystème a quand même identifié le point clé de son intégration dans le territoire, c'est que les commerces prennent en main le sujet et un véritable rôle d'acteur là-dessus. Donc ce sont effectivement les commerces de proximité qui ont un rôle d'animateur aussi. Donc alors, Écosystème, c'est du covoiturage de proximité. Ce sont des espaces de travail partagés aussi pour délocaliser l'emploi dans ces secteurs-là et réduire encore les déplacements domicile-travail. Et puis les projets collaboratifs, là, c'est plutôt pour créer de l'emploi sur place, et notamment grâce à la filière énergie qui offre des opportunités importantes. Alors, donc dans notre petit village d'Aïen, il est à noter que, un, le commerce, le covoiturage fonctionne, et nous avons 12, nous avons eu aussitôt les 12 commerces d'Aïen qui sont devenus partenaires de proximité. Aujourd'hui, on en a 22 parce qu'on a élargi. On est en train de monter l'espace de travail partagé. Et il y a un projet collaboratif citoyen avec une quarantaine de personnes qui consiste à installer 9 unités de production d'énergie renouvelable sur des toitures et qui donc est accompagné par un organisme bancaire qui fonctionne, donc qui est en cours de réalisation. Voilà. Alors, du coup, alors les objectifs, donc bon, je vais revenir sur les objectifs, mais qui croisent évidemment ceux que j'évoquais pour les gares, c'est bien sûr de participer au désenclavement des territoires, parce que la particularité, c'est que le village où ça a été, où on a mis en place l'écosystème, c'est quand même un village où il n'y a pas de gare. Donc ça a été soutenu par les SNCF, mais justement, il n'y a pas de gare, donc ce n'est pas une commune gare. Et donc l'intérêt, bah, c'est que là, l'écosystème, ça répond absolument à n'importe quel type de territoire, avec ou sans gare. Apporter donc la maîtrise de la mobilité, de la proximité, c'est-à-dire que c'est donc du coup à ce moment-là bah, aux gens qui vivent sur le territoire de ne pas tout attendre de l'État ou des collectivités, etc., mais de prendre en main la réalité de leurs besoins et d'essayer de le développer en ayant vraiment c'est en ça qu'ils ont d'ailleurs ce rôle d'acteur évoqué tout à l'heure. Ou lutter contre l'isolement, effectivement, alors c'est important. C'est important de lutter contre l'isolement et parce que c'est aussi un moyen de maintenir les personnes âgées plus longtemps chez elles. Hein, ça, c'est un élément important aussi et qui touche particulièrement d'ailleurs les préoccupations des départements. Et puis, c'est créer une diversité de services de proximité avec les commerces de proximité parce que les commerces de proximité, quand ils s'engagent dans l'écosystème, ils signent un pacte de partenariat de proximité qui les engage à accepter la monnaie qui émane du covoiturage, des bons énergie. Et ils apportent trois services qui vont faciliter les déplacements de proximité. Et donc, ils les choisissent dans un catalogue de services et qui sont identifiés par... Les services sont identifiés par les pictos que vous voyez en bas. Et donc, ils aident à l'itinéraire. Ils donnent les horaires de train, les horaires de car. Ils organisent les rendez-vous des covoitureurs dans leur magasin. Enfin, voilà, il y a tout un tas de services. Et du coup, ça les rend plus attractifs. Ça leur donne un rôle vraiment de lien. Ça renforce leur rôle de lien social. Voilà. Et enfin, développer l'attractivité des activités économiques locales. Et enfin, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ah zut, à chaque fois je me trompe de... Voilà, c'est ça. Donc le retour d'expérience d'Aïen, donc rapidement, la fédération donc, qui s'est rapprochée du grand partenaire SNCF et de la petite commune d'Aïen. C'est une association locale, le durable à son village, a été labellisée par le grand partenaire SNCF Écosystème. Il s'appuie sur la maison de service au public qui distribue les fichets, et les macarons d'ailleurs pour les conducteurs qui collent ça sur leur voiture pour être repérables. Et qui font signer le pacte de partenariat de proximité à tous les commerces qui veulent devenir partenaires, voilà, et qui acceptent les bons énergies, qui à Aïen s'appellent les bons IACA. IACA, c'est le Y d'Aïen avec Association des commerces d'Aïen. Donc l'idée, c'était justement que les commerces s'approprient encore plus cette monnaie en utilisant ce terme-là. Donc en fait, dans le cas d'Aïen, il y a eu tout de suite 50 covoitureurs pour une population de 740 habitants. Aujourd'hui, ils sont 780. Donc il y a eu une vingtaine de ménages supplémentaires qui sont installés à Aïen. Et on a étendu aux sept communes voisines en 2016 et on a eu aussitôt 22 partenaires de proximité, donc 10 partenaires de proximité supplémentaires, les commerces de ces petites villes, de ces petites communes, et 90 covoitureurs. Donc aujourd'hui, on a une centaine de covoitureurs, ça évolue peu à peu. Voilà. Et alors le dispositif circulaire, bah, il est assez simple. Hein. On a là-haut l'association locale qui est labellisée et les passagers vont chercher la monnaie écosystème qui est là pour avoir les fichiers kilométriques à raison de 5 centimes du kilomètre. Donc ils donnent leurs euros à l'association qui leur donne les fichiers. Les passagers donnent leurs fichets aux conducteurs au fur et à mesure qu'ils font du covoiturage. Les conducteurs eux-mêmes, bah, quand ils retournent le fichet, ils se retrouvent avec des bons énergie d'une valeur de chacun de 25 centimes. Ils l'utilisent chez les commerces et les commerçants, eux, vont changer leur bon énergie contre les euros qui auront été confiés à l'association au départ. Voilà, c'est vraiment un système assez simple. Voilà. enfin, qui s'est simplifié, on va dire. C'était pas si simple au départ. Voilà. Et quant au covoiturage lui-même, bon, c'est assez classique. La voiture, elle a un macaron sur, elle a un macaron écosystème collé sur son pare-brise. Le rendez-vous, il est aux arrêts de bus existants ou dans les commerces existants, ou bien les gens vont chercher chez eux. Effectivement, le passager va donner ses fichets qu'il a récupérés auprès de l'association au conducteur, et le conducteur, quand il a récupéré plein de fichets, il les échange contre, il va pouvoir faire ses courses, et les commerçants, ils vont échanger ça, leur bon énergie, contre les euros auprès de l'association. Alors l'intérêt pour ces commerces, c'est que le système est interdit aux grandes surfaces. Donc il y a les grandes surfaces, elles sont complètement exclues. Il n'est pas question que de voir arriver Carrefour, Auchan, comme ça, dans ce dispositif. Et McDonald's non plus, d'ailleurs. Alors donc du coup, parce qu'il y a aussi le côté un peu, on évite quand même également tout ce qui est non raisonné, on va dire. Voilà, alors après, bon, bah, la procédure, bon, en fait, elle rejoint un peu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite parce que, effectivement, je vois que je prends un peu trop de temps. Voilà, et donc, voilà, j'arrive à la fin. Donc, les trois leviers d'écosystème. Écosystème, bah, effectivement, son principe, c'est le terme, il y a le jeu de mots écosystème, bien sûr, parce que l'objectif, c'est de recréer un écosystème local pour que les petites collectivités puissent retrouver une forme d'autonomie par rapport à... Elles sont complètement de plus en plus dépendantes des grandes villes. Les habitants sont complètement attirés, donc elles se font complètement vider par les agglomérations. Donc l'idée, c'est qu'elles retrouvent un peu d'autonomie, autant en termes de déplacement, d'emploi, et de population, et que le commerce puisse effectivement rester. D'ailleurs, écosystème, le vrai succès d'écosystème, c'est qu'il y aura de nouveaux commerces qui s'installeront dans les secteurs où écosystème est mis en place. Voilà. Donc effectivement, donc elle accompagne la transition énergétique, hein, pour la croissance verte. D'ailleurs, on est financé par ce dispositif, par la communauté d'agglo de Brive-la-Gaillarde, qui est territoire à énergie positive. Donc développer les modes de déplacement. Donc je ne vais pas vous relire peut-être toute la slide. Et puis la démarche participative dans les secteurs complexes. Alors ça, à la recherche d'identité, là, ça fait allusion au secteur notamment des banlieues, des périurbains. Pour dire les mots qui sont plus adaptés, mais enfin, c'est quand même les banlieues sinistres, des grosses agglomérations où il y a des quartiers qui sont pratiquement en dehors des lois, où la police n'ose même plus rentrer. Et je pense à ces secteurs-là qui sont particulièrement difficiles, où en réalité les populations sont complètement isolées parce que le territoire il est complètement fracturé par des infrastructures qui coupe les territoires et qui isole les populations et qui font qu'il y a là aussi un phénomène d'oubli, mais là on est vraiment sur des populations de quartiers, pas forcément sur des communes entières. Comment réintégrer ces populations et leur redonner confiance et qu'elles retrouvent un peu de confiance en elles. Voilà. Et donc ça, c'est le développement de projets collaboratifs qui associent tout le monde, qui peut favoriser justement cette relation, une nouvelle relation des habitants avec ceux qui les administrent, et puis avec tout le monde, avec des experts, avec tout un tas de gens. Voilà. Donc il s'agit bien d'associer les habitants, les commerces de proximité, les activités locales, en réalisant les fameuses opérations flash que j'évoquais tout à l'heure, les projets chic et choc et pas cher, qu'on dénomme 3 semaines, on les fait en 3 semaines, c'est 3 semaines pour un projet, et en 3 semaines, les jeunes professionnels ou les étudiants donc de la région, architectes, paysagistes ou autres, hein, d'ailleurs ça peut être des designers ou tout ce qu'on veut, font des propositions d'action, d'intervention extrêmement rapide et extrêmement visible pour les habitants, pour qu'ils voient que les choses peuvent changer rapidement. Voilà. Et donc l'objectif, bah, c'est évidemment contenir la facture énergétique, notamment par la production d'ENR, et là c'est la réalisation d'opérations partagées, soit entre plusieurs communes par la création des SEM ou de participation à des SAS, ou des groupements de citoyens, comme c'est le cas dans mon petit village d'Ayen, pour créer des unités de production d'énergie renouvelable. Voilà, donc ça doit être la dernière. Écosystème facteur 4, j'en ai déjà suffisamment parlé. Mais effectivement, c'est bien le fait de combiner les différentes actions, covoiturage, espace de travail partagé, qui permet en réalité de participer à cet objectif facteur 4, puisque l'objectif, c'est de réduire au moins les flottes de voitures que, des ménages qui ont plus de deux voitures. Voilà. Et si on réduit d'une voiture, ben, en gros, on va réduire en gros de 30% le nombre de déplacements en voiture, donc le taux de gaz à effet de serre.
Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision rapidement, parce qu'on va enchaîner ensuite avec M. Flonneau pour ne pas trop dépasser l'horaire, puisque nous sommes vendredi de surcroît. Tu te présentes en même temps, puisque on enregistre. Hein.
Merci. Bonjour, Toussaint Lorsane. Je suis associatif, milieu associatif, et puis élu, ancien élu. Je me suis beaucoup occupé, alors c'est pas tout à fait écosystème, c'est pas tout à fait comme vous faites, mais les trains qui vont de Poitiers à La Rochelle, puisqu'on est dans ce secteur-là, on a mis un temps fou à faire passer le message que ces trains-là, à 80%, pouvaient être utilisés par des vélos, transporter le vélo. Et Poitiers-La Rochelle, il ne s'agit pas de le faire en vélo, mais on transporte son vélo. Et il a fallu, donc je dis, je sais pas, peut-être 10 ans pour faire comprendre aux citoyens qu'il mettait son vélo dans le train et au moins il partait en vacances. Et il y a eu des associations qui s'en sont beaucoup occupées, qui ont fait partir des jeunes en général, même des moins jeunes. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a même des agences qui font des voyages allés par le train. On mettait les vélos, on allait à La Rochelle, on passait 2 jours et on revenait par la route tranquillement. C'est dommage que les gens ont du mal à comprendre que, voilà, j'arrête. C'est dommage qu'ils ont du mal. Et ça permet de faire tourner les trains, beaucoup plus. Autrement, la ligne Poitiers-La Rochelle, à mon avis, elle se serait arrêtée.
Réponse rapide. En vérité, je crois que le sujet du vélo et du train, alors ça, c'est un sujet très redondant, parce que c'est vrai que la SNCF, elle a eu du mal à bien intégrer l'opportunité de faire entrer le vélo dans le train. Ça prend beaucoup de place, un vélo aussi, hein, c'est aussi lié à ça. Et donc, mais aujourd'hui, je pense que c'est acquis dans quand même pas mal de territoires. D'ailleurs, on voit les installations pour accrocher les vélos dans les trains. Donc après, c'est une question de communication plus qu'autre chose. Et ça, c'est plutôt le territoire qui doit d'ailleurs communiquer là-dessus, plus que la SNCF, parce qu'il s'agit des TER. Donc en l'occurrence, c'est bien la région qui doit communiquer là-dessus.
Le transport des vélos est gratuit.
Oui.
Merci pour ce témoignage lusignanais, proche, en tous les cas. Merci, Toussaint. Je vous propose que M. Mathieu Flonneau passe à la tribune. Donc on a fait appel à lui parce qu'au fond, on voit le temps passe vite, hein. Et donc l'histoire nous rattrape, si j'ose dire. Et c'est ça l'idée, c'est de rester quand même accroché à la longue période pour réfléchir sur ce problème des transports. Donc je vous laisse le soin de vous présenter et d'intervenir.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Jackie Daniel, pour l'invitation, ainsi que Céline pour l'organisation, évidemment. Je pense que l'intervention apporte un cadre à l'étude quasiment monographique qui nous a été présentée là, même si évidemment on voit bien l'arrière-fond que la SNCF donne au niveau national à la problématique. Toujours est-il que mon intervention, et je vais ne pas être trop académique, donc il y aura des images sur lesquelles je passerai très vite, mon intervention est plus de cadrage, plus général, plus adossé également à quelques enjeux problématiques qui, vous allez voir, sont aussi très territoriaux, et c'est en cela que votre rencontre de cet après-midi m'intéresse, parce que, somme toute, il y a une actualité de ces questions d'infrastructure, de transport, de légitimité des modes qui n'échappe à personne. Au lendemain quasiment d'un rapport déposé sur Notre-Dame-des-Landes, nous en reparlerons, à la veille d'arbitrages importants qui seront donnés sur le Grand Paris Express, à savoir est-ce que l'on va continuer à financer ce grand éléphant blanc en région parisienne ou est-ce que l'on va peut-être insister sur les trains du quotidien auxquels il arrive parfois des accidents malheureux, et l'actualité est de ce point de vue-là très brûlante. Enfin, dernier élément de contexte et d'actualité, évidemment, toute la réflexion sur les assises de la mobilité. que le gouvernement mène autour des abbés de borne. Et j'avais joint un document qui peut être diffusé, je pense, hein, à ma présentation, qui était une interview donnée pour Ville, Rail et Transport. Et dans cette interview, dont la revue est ici, je vais la faire circuler, ainsi que d'autres ouvrages. J'en ai amené d'ailleurs, merci, j'en ai amené, si d'aventure certains sont intéressés, peut-être que je vous laisserai Jackie à la fin. Alors, l'actualité est donc lourde autour d'une question qui n'est plus qu'une question de transport. Naturellement, le transport est dépassé. Nous sommes dans une problématique qui est celle des mobilités. Et la loi future d'orientation nationale sera une loi sur les mobilités, c'est-à-dire que le transport n'est pas technique, contrairement à ce que l'on voudrait parfois faire croire. Autrement dit, je suis très sceptique, vous allez le voir, vis-à-vis des solutions miracles qui sont parfois évoquées, ceci allant du sea bubble ou les taxis volants, ou bien aux voitures autonomes, très improbables, et j'y reviendrai, ou encore à la très grande vitesse de l'hyperloop et d'autres données comparables. Donc, la mobilité, c'est autre chose. La mobilité, c'est du lien social. On ne saurait mieux le mettre en perspective avec l'intervention précédente. Naturellement, vous avez des hommes, des femmes, de différents âges, de différentes générations qui sont impactés par ces questions de mobilité. Et donc je vais aller très vite, mais tout de même, en rappelant que la question est fondamentalement politique, que sur la longue durée, eh bien, elle mérite d'être réfléchie. Alors ma spécialité, ma propre spécialité, c'est ce que j'appelle la civilisation de l'automobilisme, la construction cohérente d'un espace public pendant plus d'un siècle qui a fait à l'automobile une place tout simplement parce qu'elle résolvait des problèmes, bien plus qu'elle n'en posait. Et donc le paradigme a indiscutablement changé. Généralement, il y a des adossements, je passe très vite, mais il y a aussi une conviction. Et celle-ci, elle va me suivre tout l'exposé. Je pense que la route comme infrastructure, non pas comme mode, parce que la route est plurielle, on peut y avoir des usages collectifs, eh bien la route est un dispositif ancré, alors le terme est pédant, mais dans l'isonomie républicaine. L'ouvrage que je fais circuler, coécrit avec Jean-Pierre Orfay, s'intitule « Vive la route, vive la République », c'est un essai impertinent par rapport à un mode, par rapport à une infrastructure souvent décriée, mais pourtant qui est bien présente jusqu'en Corrèze, mais jusqu'en Limousin ou dans le Poitevin, naturellement. Et donc il y a là quelque chose d'enraciné. Et je souhaiterais véritablement, jusqu'à la provocation, poser l'opposition entre la carte et le territoire, de ce point de vue-là, entre des schémas éventuellement technocratiques et une réalité pratique quotidienne. Et il y aura d'autres exposés à la suite qui viendront rappeler cela du côté de Ruffec, notamment ma présentation personnelle. La suite, c'est cela. Je suis vraiment à l'écoute de ce que nous dit la rugosité du réseau. Et ça, ce n'est pas délocalisable, ça doit être entretenu et ça constitue un lien entre les gens. Michel Serre a cette formule, je l'aime beaucoup, la route qui mène à Lannion, il aime beaucoup la Bretagne, demeurera toujours. Le numérique n'influera pas beaucoup sur cette réalité. Toutefois, la question de la desserte de Lannion se pose. Alors, par-delà la boutade qui consiste à aller de Macron à Macadam, ou inversement, de Macadam à Macron, eh bien, il s'agit de réfléchir de façon humaniste la dimension des transports. C'est pourquoi, naturellement, l'ensemble de la discussion de ce midi m'allait très bien autour de ces désamours également qui sont parfois manifestés autour d'un objet qui, à mon sens, est considéré comme un écosystème périmé, mais quand même, même des entreprises nationales comme la SNCF, censées faire du train, mais qui font quand même beaucoup de routes, y reviennent. Et puis les GAFA, les GAFAM, même si l'on ajoute Microsoft à Google, Amazon, Facebook et d'autres, reviennent à l'automobile. Ils ne savent pas encore bien la fabriquer, mais ils y reviennent après l'avoir considérablement méprisée. Et donc l'image, là, c'est une image de Franquin, c'est pas neuf comme fantasme, je suis désolé de le rappeler, mais la voiture sans conducteur, on en rêve depuis les débuts de la voiture, et peut-être est-ce autre chose qu'une voiture précisément, et on perd de ce point de vue-là l'objet que j'appelle l'objet sensationnel. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais lorsque j'écris l'automobile au temps des Trente Glorieuses, j'explore un mythe individuel, un mythe qui est lié, certes, au progrès individuel, mais qui est lié à une aspiration profonde, personnelle, à une découverte des paysages. Et on est très loin de la perception du réel, tel qu'un lidar, si élaboré soit-il, peut vous la restituer. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien du réel. Vous avez des indications, des datas, mais la vie n'est pas faite de data. Donc il y a des sensations qu'il s'agit, bien au contraire, au travers de l'objet automobile, de percevoir. Alors je vais aller très vite parce que l'objet qui est clé celui que nous explorons collectivement aussi dans le choc de mobilité qui circule, c'est qu'il y a un tempo des innovations techniques qui peuvent être des innovations techniques de niche très intéressantes, mais dédiées à quelques usagers. Je pense que la Tesla S, qui n'est de toute façon pas rentable comme véhicule, il faut le rappeler, la Tesla n'est destinée qu'à une certaine frange de la population et en aucun cas il n'y aura généralisation de cela. Je donne souvent cette proportion, les grands de l'automobile, Volkswagen, Toyota, General Motors, l'alliance Renault-Nissan, produisent en 2 jours la production que Tesla fait en 1 année. On ne parle pas du tout de la même civilisation de l'automobile. Et les promesses de la civilisation de l'automobile, elles sont pourtant nombreuses. Elles sont menacées, je le dis très clairement, par des sociétés qui utilisent exclusivement les data. Uber, nous en reparlerons. Cette publicité que j'ai plutôt datée de 1984, le 1984 d'Orwell, évidemment. Cette publicité est très inquiétante. Vous me permettrez de la mettre en perspective de l'image qui accompagnait ma propre présentation. C'est-à-dire que la ville de Google, la Smart City, la ville dite intelligente, mais qui n'a rien de clever, qui est tout en data, où tout est soi-disant donné, mais rien n'est gratuit, finalement. Bien, cette ville, c'est une ville déshumanisée, première chose. C'est une ville où il n'y a que des repères dans le paysage urbain où la limousine est bien esselée et on est très loin de la congestion traditionnelle. Et donc, on est là, et cette publicité-là que Uber faisait, était pour rendre sympathique une entreprise qui ne l'est pas du tout, en termes de droit du travail, en termes de bien des choses qui sont aujourd'hui remises en question. Et à certains égards, il y a une grande naïveté à vouloir faire de ces sociétés des sociétés d'avenir de la mobilité ou du transport. Pour ces sociétés, nous ne sommes pas en 2017, nous sommes en 1840. Nous sommes au début de la révolution industrielle, à un moment où dans des niches, ou dans des brèches, on s'enfourne pour faire un profit maximal. Simplement, le dégât est aussi maximal, ceci mérite d'être cité. Alors, je ne m'attarde pas sur cette hypothèse, mais enfin, il y a un mouvement citoyen qui est aussi très opposé à cela. Et ce mouvement citoyen, bah, nous allons le croiser ailleurs. Je vous renvoie à ces écrits, il y en a d'autres, mais... L'objet n'est pas que là. L'objet est aussi de montrer, c'est un terme qui est revenu dans nos débats ce midi, qu'il y a des réelles fractures. Et la réelle fracture populiste, le risque dans une société où, je le redis, pour 70%, les citoyens soit se désintéressent de la politique, ne vont pas voter, soit votent aux extrêmes, eh bien ce risque existe très largement. Et ce qui commence à être levé par les assises de la mobilité, par un retour du réel, c'est la levée du tabou routier. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a cru pouvoir, en apesanteur, raisonner sur des idéologies, notamment d'un écologisme profond, un écologisme politique qui est très respectable et qui est effectivement à favoriser, mais qui n'est pas à tirer jusqu'aux conséquences extrêmes, car les conséquences extrêmes, elles n'ont rien de liant pour les citoyens. Et donc il y a là des enjeux que un théoricien pour le moins modéré comme Jean Viard avait bien pointé, c'est-à-dire que l'idéologie du développement durable, qui est une idéologie également, eh bien, peut être contradictoire avec des données de développement. Alors je ne m'attarde pas, mais c'est une autre perspective. Là, c'est le cosmétisme ludique de centre-ville. Je crois que là, les Parisiens sont servis et que le débat, une fois dépassé le périphérique, prend une toute autre tournure. Et donc je ne vais pas vous faire injure de la rappeler. Je la rappelais récemment à des assises de la mobilité déconcentrées à Rennes, où, évidemment, ce qui est parisiano-parisien n'intéresse que modérément, et on peut le comprendre. Donc, de ce point de vue-là, je cherche tout simplement à remettre contre certains anachronismes en perspective l'infrastructure routière, ce qu'elle signifie véritablement, la connexion, si on veut remployer ce mot largement utilisé précédemment, la connexion qu'elle peut véritablement susciter. D'où vient cette histoire routière? Je vais passer très vite. Ce qu'elle nous dit encore aujourd'hui, quel est ce patrimoine qui existe, qui est là, qui est cher à entretenir, mais encore plus cher à recréer, si l'on souhaite véritablement une autre société. Enfin, je prendrai le risque de dérouter, parce que certes, il faut faire un effort d'imagination. Un effort d'imagination par rapport à une société finalement de rentier dans laquelle nous existons. Nous bénéficions de toutes les grandes infrastructures que les Trente Glorieuses, parfois si décriées, ont pourtant construites et qui ont accompagné une élévation de l'espérance de vie, pas moyenne, mais pour chacun, une élévation de l'espérance de vie d'environ 20 ans. C'est-à-dire qu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie au cours de cette période de développement considérable d'infrastructures. Alors, c'est ce que j'appelle, et c'est même plus une provocation, ça l'était il y a quelques années, lorsque j'écrivais des pamphlets sur ce sujet, mais clairement, la route, c'est cela. La route, c'est un pilier, et la nationale 7 que j'évoque ici, c'est un pilier du socle commun républicain. On est eh bien, dans une dimension qui, de surcroît, peut avoir une dimension esthétique, artistique, pourquoi pas, qui nous rapproche, alors c'est ce que j'avais étudié autour des cultures du volant, en ne mettant évidemment aucune automobile en couverture, c'est un tableau de Hopper que vous connaissez probablement, qui s'appelle Gas, tout simplement, et les roadsides américaines expliquent bien qu'il peut y avoir un paysage intéressant derrière. Alors, avant de nous résigner, mais je vais très vite parce que je l'ai déjà quelque peu évoqué, c'est que l'écosystème, il est présent naturellement, il faut prendre du puits à la roue, tous les enjeux écologiques de tout cela, mais il y a aussi une autre civilisation qui est très menaçante, la civilisation du numérique, celle des nouveaux barbares, car quand même, il y a là des ignorances sur la réalité qu'il s'agit au moins de combler et des rappels, et là l'historien est là pour cela, des rappels à faire. Alors, je passe sur le socle qui peut-être peut apparaître quelque peu aride et théorique, mais cette nouvelle histoire des infrastructures, le nouveau paradigme de la mobilité, il mobilise le champ académique depuis déjà une quinzaine d'années. Mais on n'était pas très nombreux. Et lorsque j'initie avec Vincent Guignot de l'École des Ponts le séminaire d'histoire de la mobilité en 2005, le mot de mobilité n'a pas pénétré tous les organigrammes municipaux. Loin de là, on est encore dans des silos de transport. Donc, cette mobilité, eh bien, elle évolue. L'enjeu, finalement, c'est la délégitimation des acteurs traditionnels. C'est-à-dire que désormais, c'est en débat, c'est une question politique et c'est légitime. Le modèle, c'est la question de l'alcool. L'alcool au volant, c'est une question de sécurité routière, mais c'est une question de santé, c'est une question sociétale tout entière. Et donc, il y a des études américaines sur le sujet. L'enjeu, il est de poser les véritables questions que la démocratie adresse aux citoyens. Et donc, cet ouvrage collectif qui résumait les travaux de notre séminaire le rappelle. Alors, la contestation est partout. On peut le noter. La route doit payer son prix, certains le refusent. On peut concevoir que la Bretagne n'a pas les mêmes enjeux de trafic routier que l'Alsace, ou l'Île-de-France, ou le sillon rhodanien. Et nous sommes à Poitiers. Il y avait un article très récent sur la Nationale 10, l'autoroute A10 et les enjeux, un article de mon collègue de Paris 1, Pierre Vermeuren, qui évoquait le délaissement de cette Nationale 10, que je connais bien par ailleurs, puisque je me rends très souvent dans l'Angoumoisin. Et nous avons là des éléments qui laisse à penser que l'abandon du fer, à certains égards, est véritablement problématique et le repli sur les containers. Et les Bretons l'ont exprimé un peu violemment, peut-être, mais enfin, ils ont une tradition de contestation, comme vous le savez. D'autres chantiers, évidemment. Le Lyon-Turin, c'est pas simple, c'est pas gagné. Et à quel prix aussi réaliser ces nouvelles infrastructures dites à la fin écologique? Donc les tensions, elles sont multiples. Même pas la peine, c'est faire preuve de charité vis-à-vis des pouvoirs publics français que d'épargner la question de Notre-Dame-des-Landes, qui témoigne de l'impuissance de l'État. Et cette impuissance de l'État, elle est manifestée dans un ouvrage littéraire que j'ai particulièrement apprécié, L'aménagement du territoire d'Aurélien Bélanger. Ça se passe en Bretagne, et vous avez là des contestations qui mènent jusqu'à un terrorisme contre une ligne de chemin de fer, précisément, et une ligne LGV. Et donc, c'était. Évidemment, vous le comprenez bien, derrière un mode, là, l'aérien, dont on parlera tout à l'heure, mais c'est un monde qui se dessine. Et là, il y a des questions qui engagent la réflexion. Alors, les continuités, bah, jusqu'aux assises de la mobilité, ce sont aussi les continuités du coût de la transition. Comment la financer à juste prix? Comment faire que l'impôt dans les territoires soit justifié? Je passe vite dessus, mais la Cour des comptes pointe les errances de la politique éventuellement photovoltaïque, éventuellement éolienne. Nous sommes là devant un déni de l'industrie française, de se croire. Si c'est pour financer des éoliennes chinoises, très peu pour l'industrie française. Enfin, on est quand même là devant des contradictions puissantes qui se parent, eh bien, parfois des meilleures intentions morales. Le discrédit de la route, il est tellement évident que c'est aussi charité publique de ne pas trop le rappeler. Et pourtant, on a négligé cet héritage et cette accélération que la route a connue. Des révolutions routières, il y en a eu plusieurs. Et l'invention du macadam qui date de 1815, l'invention du macadam, en accélérant, somme toute, de 30% le trafic routier, a non seulement maintenu la route avant que le chemin de fer ne vienne la concurrencer très puissamment, mais a surtout régénéré un mode de transport. Et en cela, l'automobile, par la suite, n'a fait que le transformer. Et John Loudon McAdam, qui participe des Lumières écossaises à l'époque, et c'est véritablement cet esprit des Lumières qui s'y exprime, eh bien, développait un paradigme de croissance. Alors, je vais très vite, mais conceptuellement, on n'aura pas fait mieux qu'Alexis de Tocqueville tirant une équation entre la mobilité et la prospérité, ou encore que son pendant ingénieur, Michel Chevalier, qui explique, et c'est la boutade Voltaire ingénieur, mais qu'un ingénieur des ponts et chaussées est craint à l'égal d'un éditeur de Voltaire. Car naturellement, les infrastructures déplacent jusque dans les territoires les plus reculés les idées éventuellement les plus avancées. Et donc derrière la mobilité, ce sont des questions de mobilité, de développement, de démocratie, naturellement, qui sont à l'œuvre, des questions puissamment politiques. C'est toute une civilisation qui prend la route, pour emprunter l'expression d'un grand historien, Daniel Roche, dans La France des Lumières, avec ce tableau célébrissime, évidemment, de Vernet. Donc, il en coûte pour voyager, mais ce n'est pas qu'un coût. Une infrastructure génère des recettes. Une infrastructure génère des éléments. Alors, sur la route et l'automobile, là, je vais aller très vite, parce que je pourrais vraiment être très long. J'ai beaucoup écrit sur le sujet, mais l'on est passé, eh bien, d'une automobile qui est notre amie, qui est domestiquée, à une automobile qui est désormais, qui a été, mais qu'il reste à certains égards, eh bien, clouée au pilori. La route, l'automobile sont devenus des ennemis dans une perspective climatique. Alors là, cette image, évidemment, ne coûte pas cher pour un ressortissant citoyen français. J'ai mis une voiture japonaise, Toyota, qui a financé des voitures hybrides, mais qui a aussi beaucoup financé de 4x4, de gros 4x4, notamment en Afrique, diesel. Et donc, il y a là des équilibres au sein des mix énergétiques, au sein des constructeurs, qui ne sont pas sans poser des problèmes d'hypocrisie et de réelle volonté d'action. Alors, cette crise, elle n'est pas neuve pour l'automobile. Elle remonte grosso modo à il y a une cinquantaine d'années. Et la première théorie de l'écologie politique qui désigne l'automobile comme un ennemi, eh bien, on la voit au cours des années 1960 avec des grands noms qui s'y attardent et qui s'y attaquent, comme Ivan Illich, d'autres, bien évidemment, ceci est renseigné, mais qui négligent la dynamique inclusive, la dynamique aussi du travail, historiquement, qui a été associé à l'automobile. C'est-à-dire que jamais l'automobile ne se serait imposée comme un mode universel si elle n'avait été inclusive, ce qu'elle reste. Elle reste servicielle, elle reste destinée à desservir en capillarité fine des territoires jusqu'au fin fond de la Corrèze, mais l'automobile, c'est cela. Ce sont des usages potentiellement partagés. C'est une industrie puissante. Donc là, je le redisais ce midi, enfin, j'ai peine à recevoir parfois des leçons de morale d'intermodalité de pays qui n'ont de toute façon pas d'industrie automobile à défendre, donc ça ne leur coûte pas cher de ce point de vue-là. Et on peut rappeler que la ville de Paris, avant de refouler l'automobile, eh bien, l'a largement exploité et en a été bénéficiaire. Alors ce monde inclusif, il est là. J'ai mis des taxis de la Marne parce que c'est plié dès avant la Première Guerre mondiale. La sensibilité automobile de la société. Et puis, somme toute, quel que soit le mode de transport, ici, vous avez des véhicules électriques, et il a un siècle, le véhicule électrique, et il a échoué, il y a un siècle, pour de bonnes raisons, le véhicule électrique. On pourra y revenir, si vous le souhaitez, dans quelques éléments de débat. Mais vous avez aussi, eh bien, tous les véhicules qui participent du système de l'automobilisme, c'est-à-dire, c'est pas du tout l'auto solo, l'automobile. L'automobile, c'est aussi l'autocar, c'est aussi le camion, c'est aussi la voiture professionnelle, la voiture partagée, finalement. Et celle-ci existe depuis les origines. Donc, ce monde inclusif, il existe. La naturalisation, elle existe, elle est promue par des grands congrès internationaux qui en généralisent l'usage, je vais vite. Les premiers panneaux de stationnement, je le rappelais en commentant la catastrophe d'hier, évidemment, mais les quatre premiers panneaux comprennent bien évidemment le passage à niveau, qui est une vieille ancienne du débat et de ce conflit, mais plus qu'un conflit, tragique autour de l'automobile. Et tout ce qui a permis de naturaliser l'automobile, c'est aussi toute la convivialité qui va avec. Et là, il faut aller chercher, puiser le terme que l'écologie politique a capté en le déniant à l'automobile. La gastronomie Michelin, qui est inséparable du guide Michelin à partir de 1910, donc 10 ans après sa fondation, eh bien, c'est une évidence. L'automobile permet de redécouvrir non seulement des territoires, mais des terroirs. Et nous sommes là dans une perception d'une réalité augmentée, pour employer un vocabulaire contemporain, mais qui est déjà liée au début du mode automobile. Alors le pendant, il existe, évidemment, les accidents, les excès, les chauffards, mais ce sont des déviances. Et c'est un système qui est réprimandé, et c'est un système qui est judiciarisé très tôt. Alors je passe, Mais les enjeux de développement sont considérables. Les premières autoroutes, la France se lance tard dans le processus, et ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec les Trente Glorieuses, que des réalisations comme le triangle de Rocancourt sont réalisées sur l'autoroute de l'Ouest. L'âge d'or des Trente Glorieuses, je vais très vite, mais la vraie démocratisation, elle est là. L'indice consensuel de modernité, c'est indiscutablement l'automobile. En France, tel qu'il l'avait été aux États-Unis d'Amérique une quarantaine d'années auparavant, autour de la Ford T. Les autoroutes, alors, je ne m'attarde pas sur le titre, mais il n'y a pas de nécessité de l'autoroute. La route est déjà quelque chose de sensible. Et puis là, évidemment, pour ne pas que la région parisienne échappe au débat, mais lorsque le général de Gaulle visite le chantier du boulevard périphérique en 1966, cette image est extraite d'archives exhumées, eh bien, c'est un grand projet d'équipement national. C'est un grand projet d'équipement de la région parisienne qui est bientôt contesté pour l'intérieur de Paris. Et donc, en 1968, rue Gay-Lussac, à deux pas de la Sorbonne, on brûle en effigie, on renverse naturellement le symbole de la société de consommation dans une société qui n'a pas peur des excès, évidemment. Personne n'aurait souhaité, là c'est une publicité au premier degré de la société Michelin, il n'y a aucun doute, le marketing ne fait pas de second degré réellement, jamais. Donc la société Michelin envisage le plaisir de rouler dans un Paris qui ne ressemble plus qu'à la Défense. Alors au chapitre des éléments totalement utopiques qui intéressent certains ici, bien évidemment, vous l'aurez noté, pour les spécialistes automobiles, ceci représente une Ford Nucléon, c'est-à-dire une Ford nucléaire, l'énergie nucléaire adaptée à la locomotion individuelle, quelque chose qui est évidemment en contradiction avec l'évolution des congestions, des contradictions puissantes du système automobile, que je ne manque pas d'analyser naturellement, mais c'est au cours des années 70 qu'apparaissent les ministères de l'Environnement, les politiques de sécurité routière, et que s'inversent des courbes évidemment scandaleuses d'accidents de la route qui conduisent jusqu'à aujourd'hui, eh bien, à une conception beaucoup plus responsable de la sécurité routière, puisque la prévention routière s'exemptait, vous savez, comme avec le timbre tuberculose, on faisait un timbre que certains ici ont probablement connu, puis on faisait appel, alors c'était naturellement très motivant, à la prudence, à la discipline, à la courtoisie des conducteurs, en laissant envisager que cet ange, une forme de fatalité divine, non, pas du tout, l'accident, on le sait bien, répond à une logique. La catastrophe est logique. Eh bien, on espérait là peut-être une certaine bénédiction routière qui exemptait de quelques responsabilités, notamment de moins boire ou d'aller moins vite. Donc, on est là dans des contradictions puissantes. Ces contradictions, on en est revenu. Et donc, le regard, c'est celui désormais, mais depuis 40 ans, d'une nouvelle objectivité sur le circuit de l'automobilisme, en quelque sorte. Et donc, on a fait des arbitrages. On peut même employer le mot de résilience, puisque l'espace public a été repensé. Et lorsque des grenelles des mobilités sont lancées dans l'agglomération bordelaise, eh bien on est obligé de tenir compte des réalités, des désirs, des populations qui cherchent aussi une optimisation des réseaux, et puis une rationalité plus grande de l'objet de son usage, éventuellement son partage. Bref, le pas est fait, et j'en conclus par là, vers les nouveaux usages collaboratifs, conviviaux, partagés et évidemment numériques. Et je ne pouvais pas ne pas mentionner, mais il a déjà été à l'honneur dans la première communication, les autocars de M. Macron. Alors, des éléments de conclusion en deux slides. Au présent, il faut dépasser des contradictions. C'est-à-dire que l'urgente réforme territoriale, et je reviens véritablement au thème de votre après-midi, c'est de prendre en considération et de faire qu'il n'y ait pas que du top-down, comme disent les managers, que ça ne vienne pas que du haut, mais qu'il s'agit aussi de tenir compte de populations éventuellement esselées, délaissées. Et ceci est très difficile à faire remonter. Il faut avoir une clarté des buts. Il faut aussi jouer la valeur contre la démonétisation. Et là, c'est un autre débat, mais enfin, quoi qu'il est totalement lié. La gratuité est une fausse bonne idée. De surcroît, la vraie valeur, où est-elle produite? Est-ce dans, et j'ai pris l'exemple de Tesla, j'y reviens, d'Uber, je reviens, est-ce dans une exploitation d'une économie de plateforme qui ne finance en rien alors l'objet, l'automobile, d'une part, et encore moins la route, mais en revanche, on va l'exploiter dans la logique d'économie de plateforme. Donc la valeur, où est-elle? N'y a-t-il pas une captation de cette plateforme? Et donc précisément, il s'agit de réfléchir au socialement soutenable derrière ce qui apparaît comme étant dématérialisé et qui, finalement, est déconnecté en pure apesanteur par rapport au territoire. Et donc, il y a un temps court, là, dans lequel nous sommes. et dans lequel les assises de la mobilité invitent à réfléchir collectivement sur des arbitrages qui sont profondément politiques. Et ma conviction, c'est que la sempiternelle disqualification de la route n'est tout simplement pas pensable et que l'on est en train de revenir naturellement sur quelques évidences. Et donc, indiscutablement, pour terminer sur ce mode, l'ancien régime routier est fini. Il n'y a plus d'illusion. Les Trente Glorieuses, c'était un rêve d'accès à l'automobilisme personnel, privatif, pour tous. Mais il n'en demeure pas moins que l'objet et ses usages transformés demeurent un gisement de valeur indiscutable. Et donc, ce que je retiens et ce que je souhaiterais éventuellement discuter avec vous, c'est cette possibilité d'avoir un patrimoine là véritablement considéré qui existe, qu'il s'agit éventuellement d'exploiter. Et donc, optimiser l'existence, c'est la réflexion d'Elisabeth Borne et la ligne de force gouvernementale sur ces éléments d'assises de la mobilité en cours. Et puis, de ce point de vue-là, l'obsolescence de la route est, à mon sens, très contestable. Voilà, j'ai été rapide. Je veux bien revenir sur des points, si vous le souhaitez. Merci.
Merci pour ce tableau brossé de façon magistrale. Donc, voilà, appel à des questions, des remarques de votre part, ou des demandes de précision, ou des réactions. Vous avez évoqué mai 68. C'est vrai qu'il y a un paradoxe d'image, d'ailleurs, si on se rappelle de la période, c'est-à-dire les voitures rue Gay-Lussac, comme vous les avez montré, les files de voitures cherchant de l'essence, et tout d'un coup, l'essence étant débloquée, tout le monde s'en va vers les stations balnéaires et les vacances. Oui, monsieur Pagé, vous présentez en même temps, c'est juste pour l'enregistrement.
Oh, Georges Pagé. Vous deviez parler, je crois, j'ai cru comprendre, hein, de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez rien dit? Ou alors, j'ai rien compris, là. Excusez-moi.
Alors, non, je ne devais pas en parler. J'en ai parlé. Je l'ai évoqué, mais c'est un chapitre à part entière. Vous êtes spécialiste de l'aéronautique, vous le savez bien. Sur éventuellement l'obsolescence d'un nouvel équipement, enfin, le rapport des trois médiateurs l'a dit tout. Il dit l'incapacité sociale, sociétale, à accepter une telle nouvelle infrastructure. Mais vous avez, à l'opposé, alors une incapacité assumée politiquement par certains écologistes, mais vous avez d'autres écologistes qui refusent, naturellement, l'extension de Nantes-Atlantique. Et donc, vous êtes là devant des contradictions insondables. Mais j'avais des étudiants à Sciences Po où je faisais ce cours il y a déjà 10 ans. Et le débat se posait il y a déjà 10 ans. Et j'avais pris un pari. Je disais que c'était une situation, allez le dire poliment, insoluble pour l'État. Insoluble pour l'État, dans une période de surcroît où l'État est faible, où il n'y a plus cette capacité régalienne d'arsenal, de financement et de faire passer un projet en force. Quand même, cette région est celle à proximité de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui n'y a plus mais. Cette région était aussi celle qui, indirectement, pouvait le soutenir avec un autre Premier ministre, François Fillon, qui n'était pas loin, mais avec Bruno Retailleau à proximité, qui n'y ont pu mais non plus. Il y a là une incapacité, tout simplement, à faire appliquer une décision, pourtant votée par des référendums au périmètre. Voilà. Donc, on pourrait tirer le fil très, très loin. Mais c'est un choix tel de société. Et c'est pour certains, pas d'avion du tout. C'est aussi cela. C'est aussi pas d'avion du tout. Donc, vous êtes devant quelque chose qui est très compliqué et qui, aujourd'hui, eh bien, on n'est plus en 1960, avec 5% de croissance économique, où tout le monde était d'accord sur les enjeux de la croissance économique, où, encore une fois, le vrai enjeu, quand même, pour l'historien, c'est celui-là, hein, c'est que au XVIIIe siècle et déjà au XIXe siècle, on meurt à 35 ans, en moyenne. La société française a fait des gains considérables pendant cette période. Et toutes ces inventions, le coût caché des coûts externes de l'automobile, il est évident, l'insécurité routière. Mais combien de vies sauvées par des secours automobiles? Combien, enfin, il y a tout un coût positif qui n'est pas peu posé. Non.
Cet aéroport.
Oui, mais alors, je lisais dans Ouest France ce matin que les Rennais ont aussi un aéroport, qu'ils ne voient pas de bonne humeur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes évoluer. On est là, quand même, devant des profondes contradictions. Et ce que vous évoquiez de l'augmentation du trafic aérien, c'est effectivement d'autant plus préoccupant sous d'autres latitudes, en Asie, notamment, où c'est là que ça explose. Les plus grands contrats aériens sont passés là-bas.
Oui, mais... l'aéroport de Rennes ne peut pas absorber, c'est pas possible. D'ailleurs, même l'extension, c'est impossible.
Oui, mais la perception malthusienne des choses, par rapport effectivement à... On peut aussi rappeler, c'est un argument des détracteurs de Notre-Dame-des-Landes, que Notre-Dame-des-Landes était conçue pour accueillir le Concorde, qui est la parfaite incarnation de la fin du paradigme de la vitesse, que Jean-Marc Jancovici, par ailleurs, résume parfaitement. Je cite... la formule de Jean-Marc Jancovici, il dit de toute façon, il va falloir nous habituer à aller moins loin, moins souvent, moins vite, et pour plus cher. Exactement ce que vous disiez sur l'augmentation par 3 des coûts de l'énergie. Moins loin, moins vite, moins souvent, et pour plus cher. Alors évidemment, avec ça, on fait moins rêver.
Oui, Christophe Mauvillain du collectif TGV Rufec. La démocratisation du transport aérien utilise-t-il les mêmes ressorts que la démocratisation de l'accès à la voiture que vous avez décrit ? Première question. Puis deuxième question, est-ce que les choix faits aujourd'hui en matière de transport ferroviaire ne sont pas liés à une relation de concurrence avec l'aérien, le développement notamment des LGV ? Donc le développement du ferroviaire n'est-il pas axé sur la concurrence avec l'aérien plutôt que sur la question du transport de proximité ? Vous avez décrit aussi, en gros, puisque vous venez de le dire, aller moins loin, moins vite, mais de manière plus sûre et à des coûts abordables.
Alors des coûts abordables qui risquent d'augmenter. Hein. C'est aussi une dimension là, de l'équation de Jean-Marc Jancovici. Sur la dynamique propre du développement aérien, bon, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie. Souvenez-vous que lors des négociations de la COP21, l'aérien a été exclu des négociations. C'est-à-dire que les demandes de restrictions sur les transports ont porté sur la route, quasiment exclusivement. Or, l'aérien civil, militaire, c'est une consommation, évidemment, et une production d'effets de serre considérables. Donc, il y a une forme de schizophrénie parce que vous avez aussi l'exercice d'une forme de libéralisme débridé, avec des compagnies low cost. Et donc, moi, je souris. Lorsque l'on m'objecte parfois en disant « bah oui, toi tu défends la voiture, les écoquartiers c'est la solution ». Oui, les écoquartiers avec l'effet barbecue que vous connaissez probablement, l'effet barbecue qui consiste à se passer de voiture éventuellement, mais à prendre un low cost pour une destination absolument nécessaire à Dublin ou à Marrakech pour pas cher. On est là dans des logiques, et Michel Houellebecq le dit très bien dans « La carte et le territoire », dans des logiques qui inversent le rapport à la réalité. Et cette déréalisation, je pense que la route y échappe à certains égards. Alors vous évoquiez, deuxième partie de la question, je ne sais pas si j'ai répondu sur l'aérien, mais enfin, c'est ma manière de voir la chose. L'aérien, de fait, il a cette chance, il est en apesanteur quelque part. Et donc la deuxième dimension des choses, c'est le développement de la SNCF par rapport à l'aérien et en concurrence de l'aérien. Il est évident que certaines destinations aériennes ont été tuées par la grande vitesse ferroviaire. Et c'était le but. Et ces destinations... se sont accompagnés d'une transformation radicale du voyage en train. Et le TGV est conçu, et Roger Talon, l'un des premiers designers des TGV, l'avait conçu ainsi, sur le mode aérien. Le mode d'une capsule fermée, assez étanche, plus question d'ouvrir une fenêtre, assez étanche, qui permette bien précisément d'avoir aussi cette sensation première classe. Du standard du vol aérien. Alors c'est très flatteur pour l'usager. Ça tue la compagnie aérienne, ça tue Air Inter, hein, c'est très clair. En revanche, eh bien, ça laisse à l'usager l'impression, mais c'est aussi une réalité, et c'est un choix fait par les citoyens, tout un chacun. Enfin, le commuting, ce matin, beaucoup de personnes sont descendues à Saint-Pierre-des-Corps, c'est à deux pas de Paris, c'est plus rapide que... je prends souvent pour des étudiants cette image de la région parisienne. Lorsque vous attendez le RER dans des gares comme Shell, sur les lignes D ou E du RER, et que vous voyez passer 4 Thalys, prioritaires sur ces sillons, mais que votre RER pour faire 10 km n'avance pas et ne vient pas, là, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Mais il faut le dire. Et ce sont ces sous-entendus que la route ne laisse pas de rendre évident. Donc c'est pourquoi elle est la grande accusée. Mais les autres modes d'exploitation mériteraient d'être passés au crible avec la même sévérité.
Merci, Monsieur Flonneau. Vous restez encore quelque temps, je crois, mais oui, vous oui, pas. Voilà. Mais vous avez un train après, voilà.
Voilà. C'est ça. Désolé.
Merci beaucoup en tout cas. Merci. J'appelle donc Monsieur Marquis parce que je sais que Monsieur Paget accepte aisément de laisser son ordre de passage. Il n'y avait pas d'ordre d'ailleurs. Donc là, on a parlé de la route, du train, et on va parler du port maintenant. Donc avec Monsieur Marquis, qui est directeur des relations clients du port atlantique de La Rochelle, qui est notre port en eau profonde de la façade atlantique.
Je voulais faire un petit rappel, notamment au niveau du port, pour vous dire que le port que vous connaissez, le port de commerce, pour certains, lorsque vous passez sur l'île de Ré, vous découvrez peut-être qu'il y a un port de commerce à La Rochelle. On connaît beaucoup plus le port de Plaisance et le vieux port que effectivement l'activité du commerce et encore un peu l'activité de pêche. Alors, en fin de compte, le port actuel de port atlantique La Rochelle, qui est le port de commerce de La Rochelle, a été pensé après la guerre de 1870. À l'époque, on se posait la question de savoir comment agrandir ou comment développer le port de La Rochelle. Il y a eu deux théories qui s'affrontaient. L'une était majoritaire. Elle émanait, je dirais, de la conception asiatique du port, c'est-à-dire on creuse un chenal, on met des écluses, et puis on va chercher les profondeurs des mers. Et puis il y avait un autre à l'époque ingénieur un peu atypique, Bouquet de la Grille, qui lui s'est dit à 7,5 km à l'ouest de La Rochelle, il y a un vaste marais et l'intérêt c'est d'être positionné dans le Pertuis et à proximité des profondeurs. Et en fin de compte, c'est cette orientation qui a été prise. Le port a démarré sa construction au niveau de ce qu'on peut connaître actuellement, c'est-à-dire le bassin à flot, le vieux bassin où pour certains vous connaissez la base sous-marine. Donc c'était véritablement le transfert de cette, ou le développement de cette activité portuaire pour le port de commerce à La Palisse. Il a démarré en 1880 pour être inauguré en 1890 par le président de l'époque qui était Sadi Carnot. Alors, de 1890 à fin 2005, c'est un port qui a été géré par la Chambre de commerce, la tutelle, c'est-à-dire l'État gardant effectivement toutes les prérogatives régaliennes. Depuis le 1er janvier 2006, il est passé port autonome. Alors, et depuis 2008, une nouvelle loi, là, je dirais, propulsée en grand port maritime. Enfin, il est rentré, si je puis dire, dans la cour des grands ports maritimes français. Alors, port atlantique, La Rochelle, c'est plutôt un aspect commercial, hein, pour essayer de le positionner globalement par rapport à ses confrères et néanmoins concurrents, également le positionner au sein de l'arc atlantique. Alors, c'est un port bien évidemment, comme vous le savez, situé au milieu de la façade atlantique, qui a vraiment une particularité, c'est de desservir tout l'interland du Grand Ouest, du Centre-Ouest plus exactement, et qui maintenant est véritablement intégré dans la Nouvelle-Aquitaine. Hein, donc, comme vous le savez, il y a une réflexion en cours. Hein, concernant la régionalisation, c'est-à-dire la mise au niveau d'une tutelle régionale, le port de Bordeaux, le port de Bayonne, le port de La Rochelle et un peu plus tardivement le port de Rochefort et Tenay-Charente. C'est un port qui, de par son origine, est très lié à l'activité agricole, plus particulièrement la partie céréalière à l'exportation. Le port de La Rochelle est le deuxième port français derrière le port de Rouen, qui dessert un interland, le port de Rouen, tout ce qui est Nord-Seine et Est-Seine, avec une partie du sud de la Seine. Et La Rochelle récupère, si je puis dire, ou collecte l'ensemble des flux de cette région, qui est une région très importante au niveau français, par rapport à la collecte générale, tant sur la qualité que la quantité. La récolte française correspond à 25 millions de tonnes et il s'en exporte la moitié. Hein, c'est-à-dire que la partie sur ces 25 millions de tonnes, la moitié de ce tonnage part directement à la consommation hexagonale hein, pour effectivement voir ensuite exportation, en tout cas au niveau des pays tiers ou des pays communautaires. Et le reste part sous une autre forme, la forme maritime, à travers les ports. La répartition par filière, j'ai évoqué tout de suite les céréales et oléagineux, ainsi que les vracs agricoles, ça représente 50% de l'activité du port. C'est un aspect important, effectivement, dans les céréales et oléagineux. Alors, je dirais que aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur climatique. Souvent, pendant de nombreuses années, on a balayé le facteur climatique qui nous est revenu comme un boomerang dernièrement avec de très mauvaises campagnes liées aux aspects climatiques. Et puis pendant de nombreuses années, il y a eu aussi la parité euro-dollar. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à... D'abord, c'est que le marché français est très dépendant de l'aspect climatique et de l'aspect climatique au sens large du terme. Au niveau mondial, effectivement, et il existe tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud des producteurs importants qui, je dirais, globalement, sont ce qu'on appelle le marché des commodities au niveau mondial, que la population se développe. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, en tout cas, et effectivement, des prix qui sont globalement assez hauts. Bien évidemment, dans la mesure où vous exportez de la céréale à travers le port, vous essayez d'optimiser les transports, c'est-à-dire que les flux logistiques, principalement au niveau routier. Vous allez comprendre pourquoi c'est plus difficile au niveau ferroviaire. Au niveau routier, il est assez facile, puisqu'on parle des céréales oléagineux à l'export, de parler notamment à un port de vrac agricole, c'est-à-dire des intrants, hein, les engrais pour ainsi dire, qui contribuent effectivement à la pousse des céréales. Alors la particularité, c'est que autant vous pouvez, sur un camion de 25 tonnes, transporter de l'engrais, le remonter par exemple dans une coopérative à Lusignan, hein, pour reprendre, et plus facile de nettoyer pour redescendre avec du blé. C'est un peu plus compliqué lorsque vous acheminez du blé, et de le réadapter, réutiliser au niveau ferroviaire. Ça demande effectivement des infrastructures très importantes et coûteuses. Et peu rentable. Donc il y a globalement une optimisation, sachant quand même, vous avez bien noté, que les flux sortants en termes de céréales sont beaucoup plus importants que, je dirais, que les vracs agricoles, notamment les intrants. Une particularité, c'est que le produit pétrolier, 30%, le port de La Rochelle, dans les années 70, a largement contribué au développement, si je puis dire, ou à l'inversion, depuis les producteurs, les pétroliers, directement un basculement à la grande distribution. Parce qu'il y avait effectivement des indépendants sur le site de La Rochelle qui ont cru effectivement à cette inversion. À l'époque, les grandes compagnies avaient des postes de raffinage, que ce soit à Dunkerque, toujours pour certaines, que ce soit au Havre, que ce soit à Donges, Ambesse et à Fos, et bien évidemment apporter du pétrole brut pour le raffiner dans ces raffineries. Et puis petit à petit, le port de La Rochelle s'est inscrit avec ses partenaires qui y ont investi, a permis à la grande distribution d'intégrer ou de pénétrer ce marché. Et petit à petit, comme vous le savez, ça a complètement basculé, parce que même s'il existe quelques marques encore sur les routes, globalement, la grande distribution participe largement à la distribution des produits blancs, c'est-à-dire le gasoil ou le sans-plomb. Donc, 30% de produits pétroliers, mais essentiellement de produits raffinés. Et puis les produits forestiers, pour reprendre, ce camembert, on a une grande tradition depuis de nombreuses années sur le port des produits forestiers, un peu pour des raisons historiques. Entre les deux guerres, il y a eu un problème. À l'époque, la fabrication de tout ce qu'on appelle caissage était plus orientée vers l'est de la France, sur le massif vosgien et jurassien, qui a connu... une bactérie, un champignon au niveau de la ressource qui était le parisineux. Et petit à petit, les industriels de l'époque, même si les volumes n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, se sont dit qu'il faut trouver un produit substitution. Et donc, le peuplier, donc le marais poitevin, a été cet élément de substitution. Donc, beaucoup d'industries sont venues à cette époque-là dans le Marais Poitevin, hein, et il en existe, il y en avait beaucoup plus il y a 20 ans, il y en a un peu moins maintenant, mais celles qui subsistent encore dans le Marais Poitevin sont, je dirais, les leaders sur ce marché. Donc il y a eu un historique de la, véritablement du, je dirais, du produit forestier, plus particulièrement tout ce qu'on appelle le bois travaillé, et puis aussi papetier, parce que depuis une vingtaine d'années également, on a participé, vous avez bien compris que notre port a une grande qualité tout à l'heure, que lorsque j'évoquais que le fait qu'il soit véritablement à proximité de la mer, si je puis dire, mais en tout cas des profondeurs. Et il est vrai que la particularité, c'est qu'on peut accueillir de plus en plus de gros navires. Et le fait qu'il y ait des productions et de la fabrication de pâte à papier et de papier qui soient, je dirais, transférés de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, a rendu notre port plus attractif, notamment pour les navires qui viennent de l'hémisphère sud, principalement d'Amérique du Sud. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, en fin de compte. Avant, tout ce qu'on appelle trituration ou bois de fabrication pour le papier était à base de résineux. Les résineux, c'est l'hémisphère nord, principalement les zones tempérées. C'était le Canada, les États-Unis, la Scandinavie. Mais des coupes, en tout cas des bois qui nécessitaient une croissance, on les coupait au bout de 12 ans. Et on a découvert l'eucalyptus, qui donc est un bois qui pousse mieux sous les tropiques, mais qui nécessite uniquement une pousse de 6 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, tout le marché s'est transféré depuis l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, ce qui a permis au port, en fin de compte, de s'adapter à cette situation, dans la mesure où les navires, notamment pour le continent européen, partaient de l'hémisphère sud, Amérique du Sud principalement, et remontaient sur le nord-continent. Les capacités à la fois de nautiques pour accès pour les navires et également le positionnement géographique. Hein, on est au milieu de la façade atlantique, donc avec une pénétration un peu, je dirais, sur le marché français, un peu doux azimut, font que ce sont des éléments qui ont fait que le port est devenu très important, avec bien évidemment la construction de bâtiments permettant, je dirais, de créer sur le port de La Rochelle un hub, notamment pour la pâte à papier. Ce qui positionne, en fin de compte, le port La Rochelle comme le deuxième port d'importation de pâte à papier au niveau européen et au niveau des produits forestiers, le premier port français. Alors, on va passer à globalement l'évolution de, je dirais, du port. Hein, c'est un port qui est certifié qualité, sécurité, environnement pour toutes ses activités. On a bien évidemment une démarche de responsabilité sociétale. On a signé en 2017 une charte de développement durable de la place portuaire, hein, des actions de soutien de projets associatifs. On est véritablement inscrit dans un positionnement, pour ceux qui le connaissent, ou peut-être vous n'avez pas bien vu la carte, mais comme c'est un quartier de la Palisse, on est encerclé positivement. Je veux dire, on est complètement adossé, plus exactement, au quartier. Et il est important de communiquer ce que fait le port au niveau de tous ces projets, de manière à ce qu'il y ait une meilleure compréhension. Et de nombreuses actions, dans le cadre de la maîtrise des impacts, tant au niveau de l'air, du bruit, des déchets. Le port, pour ceux qui le connaissent, qui peut-être l'ont connu avant qu'il ne soit, sécurisé, hein, nous avons réalisé dernièrement des derniers quais. Alors, effectivement, aujourd'hui, il existe des quatre terminaux et un cinquième au niveau de ce site des Lances Saint-Marc, hein, qui tous les terrains, si je puis dire, par rapport au bassin initial, hein, inauguré en 1890, ont tous été gagnés par polderisation sur la mer. Donc c'est le dernier en date qui nous permet effectivement de développer cette activité. Cette activité, vous l'avez bien compris, ce qui est principalement orientée vers les vracs solides. Et puis également, je l'évoquais tout à l'heure dans notre discussion à table, on a créé, de par la réforme de 2008, où l'État a transféré au sein du domaine public maritime, à transférer les voies ferrées vers les grands ports maritimes qui étaient encore de la propriété de l'État, principalement de RFF, à transférer vers les ports autonomes, les grands ports maritimes, tout le réseau ferroviaire portuaire. Et donc nous avons effectivement sur 50 km de voies ferrées existantes à l'époque rationaliser, les passer à 25, mais 25 km performants, avec des passages à niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, à l'intérieur du port, le camion ou le véhicule roulant le camion était prioritaire sur le fer. Donc, un exemple, on mettait une heure et demie pour descendre de Poitiers et arriver en gare de La Palice, et puis on mettait une heure et demie pour aller de La Palice vers les terminaux, c'est-à-dire pour faire 3 ou 4 km, parce qu'effectivement, pour des raisons de sécurité et de vitesse, on acheminait en fin de compte à faible vitesse et ça perdait tout son sens que de l'utilisation du train. Donc il y a eu une autonomisation importante qui permet de fluidifier. Alors j'évoquais tout à l'heure effectivement à table, nous avons créé pour dynamiser le ferroviaire et passer cette part ferroviaire sur la globalité des presque 10 millions de tonnes à 15%. Globalement, dans beaucoup de ports, c'est moins de 10% hein, au niveau le ferroviaire. C'est-à-dire que tout passe principalement soit par des gazoducs, par des pipelines ou par des moyens fluviaux, mais que nous n'avons pas, nous, en tout cas dans notre environnement. Mais globalement, on a créé pour effectivement apporter une plus-value et notamment pour capter davantage de flux sur le port de La Rochelle, un opérateur ferroviaire de portuaire. Il y a 5 ans maintenant, alors on a essayé de monter le schéma avec le partenaire ferroviaire qu'est la SNCF, mais on a bien compris assez rapidement qu'en fin de compte, c'est une utilisation du terrain pour éviter que ça avance, parce qu'effectivement, c'était inévitablement de porter concurrence. Donc, on avait qu'une filiale de la Deutsche Bahn, on a réalisé cet opérateur, et maintenant, bien évidemment, c'est un opérateur qui est très rentable, on y a mis effectivement un peu d'argent. Mais globalement, ça nous a permis de capter des flux supplémentaires, et surtout, et c'est important aussi pour nous, d'améliorer, et pour le client, d'améliorer l'offre ferroviaire, puisque la SNCF est devenue beaucoup plus performante au niveau de la desserte et au niveau du tarif. Même si, effectivement, le fret ferroviaire on dit toujours qu'il faut développer le fret ferroviaire, le problème, c'est l'infrastructure. Et en fin de compte, on est toujours à la merci, effectivement, de... Alors, vous avez cette problématique différente, vous, mais au niveau du transport de passagers. Et puis, on a aussi... Un petit écueil qui date historiquement de nombreuses années. On a aussi l'usignan, c'est-à-dire une voie unique qui pénalise ou qui perturbe un peu l'écoulement ferroviaire entre Poitiers et La Rochelle. Alors les projets en cours, hein, je vais passer assez vite pour que pas prendre trop de temps. Donc les projets, un port de service, hein, comme vous le voyez, vous avez cette image du port de service qui globalement a pour mission d'accueillir les navires de service, hein, c'est-à-dire tous les navires qui contribuent au fonctionnement d'un port, hein, les remorqueurs, tout ce qui est pilotine, tout ce qui est personnel qui vont amarrer les navires. D'abord, les bateaux de l'État, des affaires maritimes, des gendarmes maritimes, des douanes. Et donc, c'est le fameux port de service. L'opération chef de baie, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la mesure où on a de plus en plus de gros navires, notre particularité à La Rochelle, c'est effectivement d'avoir des profondeurs, moins 14,50 m, ce qui est très important pour des ports. Par exemple, ça, effectivement, des bateaux de plus de 100 000 tonnes de céréal qui partent à l'exportation, il n'y a qu'à Dunkerque et à La Rochelle que vous pouvez les charger en France. Donc, à un moment donné, lorsque vous voulez faire un bateau de plus de 100 000 tonnes, eh bien, vous le complétez à La Rochelle ou à Dunkerque, vous les faites effectivement en totalité à La Rochelle ou à Dunkerque, mais globalement, par exemple à Rouen, ils ne peuvent pas faire des bateaux de plus de 100 000 tonnes pour des raisons de tirant d'eau. Donc globalement, ils commencent à charger des navires à Rouen, et souvent, soit ils finissent à Dunkerque, soit ils finissent à La Rochelle. Alors, je vous rassure, tous les navires ne font pas plus de 100 000 tonnes. Opération de chef de baie, comme je vous disais, très importante pour l'accessibilité des navires. Opération Saint-Marc, des connexions effectivement qui vont permettre de développer, puisque on participe tout, alors après c'est un autre débat, mais toutes les éoliennes que vous voyez un peu partout au niveau de la grande région du centre-ouest, elles sont toutes déchargées à La Rochelle, elles partent par voie terrestre par la suite, principalement les deux plus gros producteurs sont les Allemands et les Danois, donc viennent par voie maritime, et puis ça c'est ce qu'on appelle l'inshore, hein, ce qui est à terre, mais aussi on travaille aujourd'hui sur l'offshore, puisqu'en fin de compte des grandes éoliennes, tout dépend de l'orientation qui sera donnée au procédé technique, hein, soit de l'ancrage au sol, soit du flotté, mais globalement on est derrière le projet de ce qu'on appelle des deux îles, et puis demain aussi le projet d'Oléron. Je pense que compte tenu de la situation de manière générale Et compte tenu de certaines annonces dernièrement au niveau du développement durable, et je pense qu'effectivement le projet de Oléron, qui a été, je dirais, retardé pour différentes raisons, va voir le jour, en tout cas au niveau de la décision administrative, on l'espère en 2018. Voilà, c'est une vue générale du port. Hein, donc vous avez bien, il n'y a pas de petit. Là, vous voyez le bassin emblématique. Ça vous donne une vision générale. Hein, vous voyez ici pour La Rochelle, vous voyez le vieux port, le port des Minimes, qui est le port de plaisance, le port de pêche qui a été déplacé du centre-ville en 1990. Et puis donc toutes ces zones, vous voyez, tout ceci a été gagné sur la mer. Hein, donc c'est des polderisations. Alors vous voyez qu'on arrive le môle d'Escale. Hein, pour ceux qui connaissent, on est plus près de l'île de Ré que du continent lorsqu'on est sur le môle d'Escale. Voilà, c'est une présentation globale qui indique que le port est un élément très important dans le développement régional. Hein, complémentaire, il ne faut pas non plus globalement dans tous les éléments utilisés, on n'oppose jamais, nous, la route au fer, au fer à la route, on est toujours complémentaire. De toute manière, vous savez, le problème du ferroviaire, souvent aussi, c'est l'embranchement des entreprises ou des silos, et aussi la rupture de charge. Donc, pour massifier, au-delà d'un certain nombre de kilomètres, il est certain que le ferroviaire est plus pertinent. En revanche, tout ce qui est inférieur à 200 kilomètres, c'est beaucoup plus pertinent par la route. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Marquis, de cette présentation du port de La Rochelle, qui effectivement est une infrastructure importante pour la région. Je rappelle aussi que les ports, alors c'est peut-être partie de la mythologie, mais étaient des lieux où il y avait le commerce, évidemment, mais il y avait aussi le commerce des idées. C'est-à-dire que c'est là où on se brassait aussi un certain nombre d'idées. Voilà, donc l'importance du port.
Et des populations.
Et des populations, voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant le port de La Rochelle ? Est-ce que certains ont pris le bac pour aller à l'île de Ré dans leur jeunesse ?
Merci, oui. Bah, c'était passionnant, d'autant que ça concerne, il me semble, 80% de l'essence même de la mondialisation, tous ces commerces et trafics. Et juste peut-être une précision que vous pourrez confirmer, je pense, le conteneur, dont on parlait également, est une invention routière initialement. Ce sont les camionneurs américains qui ont généré cette invention, et l'ensemble des ports, de leur équipement, est une création finalement de l'industrie routière.
Tout à fait. N'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Et alors, nous faisons du conteneur sur La Rochelle, mais c'est résiduel, c'est quand même très très lié par rapport au grand flux. Hein. D'abord, le marché de la façade atlantique, ça le repositionne par rapport à une généralité. Ce n'est que 400 000 équivalents 20 pieds, ce qui est pratiquement rien quand on sait que certains ports font plus de 10 millions d'équivalents 20 pieds par an, notamment des ports français. Donc ça repositionne quand même le conteneur au niveau de notre port. Et il est essentiellement lié à certaines activités, certaines filières, notamment au niveau des produits forestiers.
Merci. Merci, Monsieur Marquis. Je sais que vous avez aussi des délais et des contraintes. Donc, je vais appeler Monsieur Paget à nous rejoindre, accompagné peut-être. Ça, c'est lui qui décide. Voilà. Bon, bah, écoutez. Donc là, on va parler de l'aviation et plus exactement de l'histoire un peu de l'aviation. Hein. Et à Monsieur Paget, à vous.
Bah, tout d'abord, merci Monsieur Daniel et Madame Nolot de me recevoir. Merci de votre accueil. Alors, contrairement à mes amis qui sont passés avant moi, moi je vais vous parler du passé et peu de l'avenir. Mais je vous parlerai un peu d'avenir quand même, parce que les lignes aériennes, aujourd'hui, bien sûr, on a ces géants de transport. Qui peuvent transporter 500 personnes à la fois. Mais en 1918, où il y a eu la création des lignes aériennes, vas-y, s'il te plaît, voilà, on transportait 2-3 passagers au maximum. La ligne aérienne était un grand mot. Le Breguet 14, qui était un avion de bombardement pendant la Grande Guerre, c'était, vous voyez, cet avion, bon, c'est une maquette anglaise, hein, d'immatriculation, vous l'avez constaté, c'est anglais. Ce Breguet 14 a quand même fonctionné comme avion de liaison pendant 2 ans. Vas-y. Voilà. Il y avait bien sûr sur cet avion des incidents, et le mécanicien, comme vous pouvez voir, pendant le vol, allait sur l'aile, regardait le moteur. Bon, c'était peu fréquent quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, la naissance des compagnies aériennes, on va s'attarder principalement sur deux, celle des frères Farman et la TECOER. Il y en a eu énormément, vous voyez, dans les années 1919-1920. Certaines n'ont pas résisté très longtemps devant la concurrence. Alors, le premier chèque a été fait par un passager en avion. Il a été fait à Henri Farman. Et d'ailleurs, la famille a conservé ce chèque en souvenir. C'était le premier chèque d'un client qui utilisait l'avion. Il y a eu, bien sûr, le CMA. C'était les trois Louis. Il y avait Louis, si mes souvenirs sont bons, il faut que je regarde quand même un petit peu. Oui, Louis Breguet, Louis Blériot et Louis Renault. Louis Renault qui fabriquait les moteurs. Au départ, il y avait quand même peu de passagers. C'était vraiment très rare. Donc, on transportait du courrier pour amortir le prix du transport. Et le transport du courrier, quand on regarde les archives, c'était important. S'il y avait un accident, et Dieu sait, il y en a eu pas mal quand même, le pilote avait comme consigne, si toutefois il avait des possibilités, c'est de récupérer le dossier, le courrier, le jeter en dehors de l'avion. C'était important. Il fallait absolument récupérer ce courrier. C'était les consignes. Alors, la France avait quand même le plus grand aéroport du monde en 1920. C'était le Bourget. Les puissances comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont venues copier notre fonctionnement de notre aéroport. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Les lignes Air Union, ligne Farman. Je vais aller assez vite parce que, bon, quand on parle de lignes, c'est un avion qui faisait un essai, par exemple, Paris-Bruxelles. Paris-Bruxelles, il y avait un pilote, c'est Henri Farman qui avait fait un trait sur la carte. Et la dénomination ligne est venue comme ça. Alors après, bien sûr, toutes ces lignes ici, c'est les lignes principalement Farman. Ici, c'est plus les lignes TECOER qu'il y a eu après. Bon, il y avait peu de passagers, très très peu de passagers, mais c'était le début. Comme dans toutes les grandes inventions, eh bien, il faut démarrer. Hein. La première liaison Toulouse-Barcelone a eu lieu, bien sûr, au départ de Toulouse. C'était un événement. On allait franchir les Pyrénées. Le confort des avions sont quand même très vite améliorés. Ici, par exemple, Paris-Amsterdam et Mistinguette, la passagère, qui était une des passagères, a fait beaucoup de publicité pour les lignes aériennes. Les premiers courriers aériens hors Europe étaient bien sûr le Casablanca avec la TECOER, avec un avion, vous voyez, un Breguet 14. Bon, bien, il y avait très peu de passagers, il y avait un passager maximum. Et en plus, les politiques, au départ, refusaient d'utiliser l'avion. Ils avaient peur en avion. Et bon, il y avait quelques industriels, mais c'était tout à fait rare. C'était surtout le courrier. Alors, les premières lignes, Toulouse, Perpignan, Barcelone, Alicante et pour aller jusqu'au Maroc, Rabat. C'était un événement à l'époque, vraiment un événement. Continue. Voilà. Après, on a amélioré jusqu'en Afrique, mais ça a mis du temps quand même. Parce que pour traverser un pays, il fallait avoir l'autorisation. On ne pouvait pas survoler un pays sans l'autorisation du gouvernement. Et souvent de fois, ça allait très haut. Ça allait soit le chef du gouvernement, soit le président de la République. Et les autorisations étaient souvent de fois retirées, pas en Afrique, parce que l'Afrique, c'était sous protectorat français ou les colonies françaises. Là, on était à peu près, c'était stable. Mais à partir du moment où on a créé des lignes sur l'Asie, voilà, là, c'était beaucoup plus difficile, puisque on traversait de Paris pour aller, par exemple, soit Hanoï ou Saïgon. On traversait tout un tas de pays et les dirigeants, suivant l'humeur du moment, nous retiraient le survol de leur pays. Et c'était très compliqué, très très compliqué pour faire quelque chose de durable. Bon, ça s'est stabilisé après. On a, disons, l'Atlantique Nord a été vaincu par Lindbergh, qui a été quand même un pas en avant très important. Le tableau de Lindbergh, moi je me suis permis de mettre le tableau de bord de Lindbergh parce qu'il y avait un peu la France, les instruments de vol, le badin, il y avait un genre d'horizon artificiel qui permettait à Lindbergh de voler sans regarder à l'extérieur suite à cet horizon. Et il y avait la bille, exactement ce qu'on appelle la bille de vol. Je ne vais pas vous monter dans des détails techniques. Hein. Voilà. Et donc Lindbergh a fait un exploit. Mais les journaux de l'époque, quand je les regarde, on parle bien sûr de Lindbergh, mais il n'y a pas un mot sur les instruments français. Alors, sauf dans des revues spécialisées, bien sûr. C'est assez choquant, quand même. On parle de Mistinguette. Mais on parle avec Lindbergh, Mistinguette, qui l'a embrassé, mais on ne parle pas des instruments. Mais enfin, bon. Je suis un peu chauvin, c'est peut-être pour ça. Mermoz a fait cette ligne qui est très importante, cette ligne Saint-Louis du Sénégal, aller bien sûr au Brésil. Ça a été un événement considérable. Tellement considérable que cette ligne est inscrite par l'UNESCO à son patrimoine. C'est très très important dans les mois ou les années à venir. Avant, l'avantage de Lindbergh qu'il a eu par rapport à Nagenser et Colli, ça s'est mal terminé, c'est qu'il a fait, lui, le vol le plus avantageux, c'est-à-dire New York-Paris. Or, les autres avaient fait Paris-New York. Lindbergh a bénéficié des vents dominants, or que Nagenser et Colli, ils ont eu les vents contraires contre eux, et en plus, ils avaient le désavantage de la rotation de la Terre. Nous avons eu des constructions d'avions. Moi, je trouve que la ligne est formidable, mais ces avions faits par Farman ont eu quand même des gros... C'était en 1933. C'était, disons, on vient 15 ans après la guerre. C'était formidable. Moi, je trouvais cette ligne était formidable. Il y a eu beaucoup de constructions comme ça, mais beaucoup d'avions qui ont eu des gros problèmes d'équilibre, qui n'arrivaient pas à voler correctement. En 1933, Breguet et Henri Farman ont créé Air France. C'est-à-dire qu'ils ont rassemblé leur compagnie pour créer Air France. C'était un événement considérable, puisque la guerre entre les compagnies avait été restée au stade néant, et on pouvait se baser, en 1933, on pouvait regarder l'avenir différemment. La longueur comparée des réseaux, oui, par rapport en 1918, nous étions la puissance au monde la plus importante en aéronautique. Vous voyez, 20 ans après, nous étions au troisième rang en kilomètres parcourus. Pendant la guerre, bien sûr, les compagnies sont restées au point mort. Il y avait, comme toutes les compagnies mondiales. Et après la guerre, un avion est arrivé, le DC-3. Le DC-3 a fait une révolution dans le transport aérien, puisque cet avion pouvait atterrir, comme vous le voyez en bas, sur des pistes en mauvais état. Il pouvait décoller sur des pistes pas très conforme, et par contre il y avait un équipement de navigation qui était pour l'époque performant. Il est arrivé que le DC-3 en Afrique, là c'est pas une photo de l'Afrique mais peu importe, puisse ne pas redécoller. Ça s'est passé bien sûr dans les années 60, on prenait le DC-3 avec un hélicoptère et on l'emmenait sur une piste ailleurs. C'est extraordinaire, ça s'est jamais vu avec un autre appareil. Et en 1946-1947, le Constellation est arrivé. Alors le Constellation, c'était une révolution pour le transport aérien, puisque cet avion pouvait transporter une cinquantaine de personnes. Il avait aussi, il y avait une version grand luxe, s'il te plaît. Voilà, il y avait cette version grand luxe, un salon, il y avait chambre à coucher, et c'était vraiment pour l'époque une révolution. Bien sûr, cet avion a été construit qu'en peu d'exemplaires. Alors, Paris-New York, de 1927 à nos jours, je vais prendre ça, moi si je verrai mieux. On peut voir que Lindbergh, je vais me rapprocher du truc. Voilà. On peut voir que Lindbergh a mis 33 heures pour faire New York-Paris. Le Breguet 19 a mis, lui, 37 heures. Lui, alors, c'était dans le sens inverse, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, le Douglas DC-4, qui a été le premier avion performant qui faisait 350 km à l'heure. Lui, il a mis 25 heures dans le sens Paris-New York et 20 heures dans le sens New York-Paris. La différence était vraiment importante. Après, le Constellation a diminué un peu cette différence pour arriver au 707, par exemple, où la différence était beaucoup, peut-être d'une heure à peu près. Le 747 a réduit aussi, et le Concorde, qui lui a pu égaliser le trajet Paris-New York ou New York-Paris dans les mêmes temps. C'était assez spectaculaire, quand même, comme différence. C'est pour ça que Nagincer et Colly avaient vraiment pris le parcours le moins avantageux. La concurrence est arrivée, bien sûr, pour les navires, puisque le transport aérien a été, disons, plus performant par rapport aux bateaux. Alors, ça, c'est les accidents d'avion. Par rapport aux voitures, vous voyez quand même la différence. Le fromage, ça, c'est les voitures. Ça, c'est l'avion. La petite. Bon, l'étude a été faite par un Poitevin, d'ailleurs, qui est expert en aviation. Il devait être là aujourd'hui, mais il avait une expertise à faire. C'est une étude qui est approuvée. Et vous voyez quand même que l'avion n'est vraiment pas dangereux par rapport aux voitures, le train. Bon, ça, c'est pour le monde entier, hein, on est bien d'accord. Hein. On met métro, autobus, bon, voilà. Et le téléphérique, je ne savais pas qu'il y avait autant d'accidents en téléphérique. Mais je tiens à maintenir que l'aviation n'est pas dangereuse. Ça, c'est important. Bon, il est vrai que l'aviation, c'est polluant. Mais Il faut aussi noter que les Rolls-Royce fait aujourd'hui des moteurs qui gagnent 30% de consommation de carburant. C'est quand même important par rapport il y a 5 ans. 30% de consommation en moins. Ça va bien sûr bien moins polluer. C'est le dernier, celui-là ? Ah bon, bah, remets-le. Alors, dans la navigation aérienne, dans le transport aérien, Monsieur Rangeon, qui est de Poitiers, c'est l'expert que je vous parlais tout à l'heure, a fait un livre. Je n'ai pas de pourcentage, hein, mais il y a des gens qui... Tiens, je ne l'ai pas là, ça ne fait rien. Ah si, là, voilà. Il a fait un livre qui est vraiment très intéressant, notamment pour les gens qui ont peur en avion. Je pense à Colette Marzac. Et ce livre, Colette, il faudra que tu le lises parce que tu verras que c'est très intéressant. L'avion n'est pas dangereux, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Et ce monsieur Rangeon, qui est très connu au niveau international, national et international, a vraiment pris toutes les études en compte. Et comme on le voit, l'avion, c'est vraiment le moyen de transport le plus sûr, tout à fait sans problème. Il y a une... Pourquoi c'est un avion sûr ? C'est un transport sûr parce que l'aviation, c'est toujours... Il a toujours été équipé de moyens pour préserver ses passagers. Mais bien plus que la voiture. Je n'ai rien contre la voiture. Hein, mais... En
Je vais vous sortir la fameuse boîte noire. Ce qu'on appelle la fameuse boîte noire dans les avions. Les premières datent de 1953. Ils ont été améliorés depuis. Celle-ci, c'est celle qui est actuellement en service. Alors, il y en a deux par avion, sauf sur les avions militaires. Il y en a deux par avion. Une qui enregistre toutes les conversations de la cabine et l'autre qui enregistre tout le vol, de A à Z. Vous n'avez pas un autre moyen de locomotion qui fait ça, à part l'aviation. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je défends l'avion. Mais la sécurité mise en œuvre pour protéger les passagers, c'est formidable. Parce que s'il y a un défaut dans un vol, d'ailleurs la pièce la plus mauvaise dans l'avion, c'est le pilote. Mais s'il y a un défaut dans un vol, il est détecté. Même pendant le vol, même s'il n'y a pas d'accident. Donc le vol est analysé. Et on remet les pendules à l'heure. C'est très important. Donc, dans les transports, je sais que j'ai des œillères, comme dirait ma femme, mais le transport aérien, c'est le plus sûr. Et pour ça, le développement, par exemple, pour Notre-Dame-des-Landes, moi, bon, je suis partisan, ça n'engage que moi, bien sûr, mais c'est indispensable puisque 80% du trafic, il va y avoir 80% de plus dans 13 ans du trafic aérien. Faut bien, ces avions, il faut bien qu'ils se posent. Ils vont pas rester, voilà, c'est indispensable. Et comme Poitiers, par exemple, si toutefois, malheureusement, Poitiers devait venir une seconde zone, l'aéroport, eh bien, pour le développement économique, ça serait la même chose, ça serait catastrophique. Le Poitiers, la Vienne a besoin de son aéroport. Et j'entendais un politique l'autre jour, de gauche ou de droite, je ne me souviens plus, qui disait que ben c'est pas grave, Poitiers sera un aéroport de secours. C'est-à-dire que si on a besoin, un avion a besoin de se poser, ben il viendra se poser à Poitiers. Alors c'est complètement débile, excusez-moi du terme, parce qu'on va pas mettre en place des gens qui vont être là continuellement à regarder les mouches voler, puisque quand un avion
a besoin d'avoir un aéroport de secours, ça se décide dans quelques secondes, quelques minutes. Le commandant de bord le décide avec la tour de contrôle dans quelques minutes. Alors, s'il n'y a pas de personne pour le recevoir ici, s'il n'y a pas, si les appareils de navigation ne sont pas en service, il est bien certain que l'avion ne pourra pas se poser. Alors, faut que les politiques ne prennent pas ça comme prétexte, ou c'est pour nous voiler la face, certainement. Mais Poitiers doit conserver son aéroport. Naturellement, ça n'engage que moi. Merci de votre attention.
Merci, monsieur Paget. Merci d'avoir conclu sur une position, je dirais, régionale. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça met de l'eau au débat. Juste aussi, puisque vous avez parlé de la peur de l'avion, il existe des compagnies, par exemple la Swissair, et notamment ils ont une antenne à Tours qui fait des stages de simulation pour les gens qui ont peur dans l'avion, c'est-à-dire une journée, je crois, ou une demi-journée, je ne sais pas comment ça se passe. C'est un peu comme la peur de l'eau, puisque la peur de la créativité, la peur de l'eau, on a un peu travaillé sur ces questions. Et voilà, je voulais juste l'ajouter. Alors, monsieur Michaud va nous rejoindre. À moins qu'il y ait des questions précises à monsieur Paget, mais vous êtes encore avec nous un moment, je crois. Donc, vous serez à même de pouvoir y répondre. Donc, monsieur Michaud qui va nous emmener vers la science-fiction dans les transports. Et ça vous intéresse ? Alors, attendez, on va demander à Céline. Céline ? C'est par là parce que c'est la technicienne, c'est pas moi. Céline, excuse-moi, il y a un petit problème de technique. Bien, à vous, monsieur Michaud.
Vous m'entendez là ? C'est bon. Donc, je vais vous parler de l'imaginaire des transports à travers des représentations trouvées dans la science-fiction essentiellement, dans le but de s'interroger sur la dimension créative de ce genre artistique. Donc, pour rappel, la science-fiction a été inventée au 19e siècle. Et par Marie Shelley essentiellement, puis c'est beaucoup développé en France grâce à Jules Verne, Robida, des auteurs comme ça, avant de prendre une autre dimension aux États-Unis, notamment avec Hugo Gernsback, qui a fait de ce genre un élément important de la réflexion sur l'innovation, sur les technologies du futur. Et ensuite ce genre s'est beaucoup développé grâce au cinéma aussi, à la télévision, aux bandes dessinées, et donc il est intéressant d'étudier les représentations des transports du futur. J'ai aussi fait des réflexions sur les représentations du futur de la santé, par exemple, dans la science-fiction a beaucoup anticipé, mais aussi des télécommunications. Et donc, c'est là que je trouve un point pour commencer cette présentation, c'est-à-dire dans quelle mesure l'imaginaire des télécommunications et les innovations dans ce secteur-là vont à l'encontre d'un développement des transports. En quoi est-il possible de développer une technologie qui permette de remplacer la plupart des transports qui sont trop polluants, par exemple, au moment de l'invention et la diffusion d'Internet, par exemple, il y avait un imaginaire assez répandu chez les idéologues de cette technologie qui disait, grâce à Internet, on pourra développer la téléprésence, réduire les distances entre les individus. Et donc, grâce à la téléprésence, notamment, il ne sera plus nécessaire de voyager avec des transports polluants. Voilà, donc je vais vous présenter quelques infrastructures inventées par la science-fiction. Et je me demanderais dans quelle mesure les infrastructures de transport sont utiles à l'optimisation de la créativité territoriale. Donc ça, c'est l'autre versant de cette réflexion. Donc l'imaginaire du futur permet d'envisager les grandes mutations dans les prochaines décennies. Il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, on n'avait aucune idée du développement qu'aurait pu suivre l'aviation que vous avez présenté tout à l'heure. Et donc on peut se demander dans un siècle quelles technologies seront à disposition des humains. Donc je vais vous présenter quelques technologies utopiques. Donc je développerai la définition de ce concept un peu plus loin. Je me poserai la question de la nécessité d'investir dans la recherche et développement pour différents types de transports qui permettent de développer les territoires. Si un territoire n'adhère pas à une innovation importante, il risque d'être mis en infériorité par rapport à ses voisins. Et donc, il faut capter au plus vite quel transport, quelle technologie du futur nécessite des investissements. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de regarder dans l'avant-garde et donc dans la fiction. Dans un deuxième temps, je réfléchirai aux méthodes d'optimisation de la créativité et je me demanderai en quoi la science-fiction, justement, permet de développer cette créativité. Enfin, un territoire doit-il développer l'imaginaire pour devenir plus intelligent ou bien le territoire doit-il contrôler cet imaginaire qui peut être source de subversion et dangereux pour l'ordre établi ? Ça, c'est toute l'histoire des innovations. Au début, elles sont souvent contestées par un ordre dominant, car il pourrait subvertir et remettre en cause l'ordre établi. Donc, je vais vous présenter quelques technologies qui pourraient devenir des réalités dans plusieurs décennies, car pour l'instant, elles sont pour la plupart très loin d'être des innovations commercialisables. Donc ces technologies qui font l'objet de recherches plus ou moins avancées dans les centres de recherche et développement. Donc je pense premièrement à l'hyperloop. Deuxièmement, j'aborderai la téléportation. Ensuite, les voitures volantes. Et enfin, les vaisseaux spatiaux pour coloniser d'autres astres comme Mars. Donc cette image est la couverture d'un livre d'un auteur de science-fiction américain qui a été publié en 1929 et qui est une sorte d'avant-garde du projet Hyperloop, c'est-à-dire un train à très grande vitesse qui voyage dans un tube. Donc on peut voir... On peut voir que cet auteur, dès le début du siècle, avait déjà envisagé des technologies de transport très éloignées de ce qu'on peut connaître même au début du XXIe siècle. Donc l'hyperloop, dont voici une représentation artistique, est un train capable de voyager à la vitesse de 1500 km/h. Il pourrait relier Los Angeles à San Francisco en 30 minutes, par exemple. Donc le but est par la suite de relier les principales villes du monde à très grande vitesse. Et les défenseurs de ce projet, qui est encore au tout début de son développement, estiment que ça pourrait remplacer l'avion. Donc c'est un projet qui a été qui est développé en ce moment par Elon Musk. Donc, qui est un pionnier américain des transports du futur. Donc, il est à l'origine du concept d'hyperloop. Il a aussi développé les voitures autonomes qui ont été évoquées dans une présentation précédente. Et il cherche aussi à mettre au point des vaisseaux spatiaux capables de transporter des humains sur d'autres planètes. Cet innovateur a fait fortune en développant PayPal sur Internet, le moyen de paiement. Et donc, depuis, il investit dans plusieurs technologies qui étaient du ressort de la science-fiction au préalable et qui pourrait révolutionner l'humanité s'il parvenait à ses fins. Donc ces idées sont particulièrement appréciées par l'État américain qui finance en grande partie ces innovations. Et donc sur la photo, il y a la photo du siège de SpaceX dont on va parler un peu plus loin et qui a pour ambition de révolutionner l'industrie spatiale. Donc l'Hyperloop avait été aussi envisagé dès 1889 dans une nouvelle de Jules Verne qui s'appelait Au 29e siècle ou la journée d'un journaliste américain en 1889. Il disait notamment que les personnes pouvaient se déplacer dans des tubes pneumatiques jetés à travers les océans à la vitesse de 1500 km/h. Donc là, on voit que la science-fiction était à l'avant-garde de considérations qui pourraient mener à des innovations quelques dizaines d'années, parfois quelques centaines d'années après. Le progrès technique permet de réaliser des représentations imaginaires. D'où l'intérêt de l'imaginaire pour orienter les politiques d'innovation, de recherche et développement, etc. Voilà, donc en deuxième point, je vais vous présenter rapidement une autre technologie utopique de transport qui est la téléportation. C'est le moyen de transport ultime, dans la mesure où cette technologie a été développée, utilisée, présentée dans la série Star Trek, initialement. C'était au moment du développement des grandes politiques spatiales américaines. Donc Star Trek a vraiment énormément agité l'imaginaire américain et stimulé des politiques qui menèrent à envoyer l'homme sur la Lune, par exemple. Donc la téléportation permet de transférer un corps dans l'espace sans parcours physique. C'est par dématérialisation. L'individu disparaît du point de départ et est téléporté à son point d'arrivée. Pour l'instant, aucune expérience ou quelques expériences ont été faites pour essayer de transporter des particules les résultats sont pour le moment peu concluants. Mais c'est un point d'horizon pour les innovateurs qui disent peut-être qu'un jour on réussira à réaliser Star Trek. Pour l'instant, il y a la téléportation virtuelle qui est permise par des innovations dans les TIC et qui donne aux humains la capacité de ressentir des expériences similaires à la réalité grâce à une connexion à une simulation virtuelle globale. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est l'ambition des TIC de remplacer la nécessité d'utiliser des transports physiques. Donc là, voilà une représentation de Star Trek en haut. Donc on voit que les membres de l'Enterprise se dématérialisent et sont téléportés d'un endroit à l'autre instantanément. L'idéal de cette technologie serait de se téléporter par la seule force de la pensée. Et il y a de nombreux films ont depuis fait récupérer cette technologie utopique. Et dans Jumper, justement, les individus réussissent à se téléporter par la force de la pensée. Donc ça, c'est la technologie de transport ultime. Pour l'instant, il faut se concentrer sur les promesses de la virtualisation des interactions. Donc les adeptes des TIC estiment que l'intelligence collective va se développer de plus en plus à l'intérieur des réseaux de simulation. Et donc dans les mondes virtuels, la créativité est exacerbée et il est possible d'y développer de nouveaux mondes conformes à ses désirs. Donc grâce aux TIC et à la réalité virtuelle, dans les prochaines décennies, les innovateurs estiment que les individus passeront un temps considérable dans les mondes virtuels au détriment de la réalité. Et petit à petit, si rien n'est fait, les territoires physiques pourraient subir les conséquences de cette fuite dans les mondes virtuels. Donc un des livres qui traite de ce sujet est Player One. Il va être adapté au mois de mars par... par Steven Spielberg. Donc c'est grâce, c'est raconte l'histoire de jeunes, enfin d'adolescents qui souhaitent remporter un jeu dans l'Oasis, qui est un monde virtuel où ils passent la plupart de leur temps. Leur monde réel est dystopique, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun espoir, la Terre est très polluée, ils sont obligés de vivre dans des conditions très, très précaires. Et dans le monde virtuel, là, tout est possible. Ils peuvent vivre des expériences fantastiques. Et le créateur de ce monde, qui s'appelait Hallyday, justement, à sa mort, dit « Si vous trouvez un œuf dans le monde virtuel, vous gagnerez les 500 milliards de ma fortune et vous pourrez contrôler l'Oasis. » Donc, la créativité territoriale, dans un certain sens, se développe dans le virtuel au détriment du monde réel. Donc, une autre technologie utopique pour les transports, c'est les voitures volantes. Donc là, j'ai présenté une image du film Le Cinquième Élément de Luc Besson avec les taxis volants. Cette technologie a été développée dans les années 62-63, enfin cet imaginaire plutôt, pas cette technologie, dans les années 62-63 dans le dessin animé Les Jetsons, où la voiture volante était présentée comme la solution au problème des embouteillages. Donc ce dessin animé américain se déroulait dans le futur et fut très populaire. Et depuis quelques années, depuis quelques mois même, le thème des voitures volantes commence à devenir de plus en plus important dans les centres de recherche et développement. Et des entreprises comme Uber et Airbus prévoient la commercialisation de ces technologies dès 2025. Donc là, vous avez deux images de ces innovations. Et je vais vous citer donc le PDG d'Airbus, Tom Enders, en 2016, qui disait « Je ne suis pas un grand fan de Star Wars, mais ce n'est pas si fou d'imaginer qu'un jour, nos mégalopoles auront des voitures volantes. Dans un futur pas si lointain, nous utiliserons nos téléphones pour réserver des taxis volants entièrement autonomes qui nous déposeront devant notre porte d'entrée. » Donc là, c'est le futur d'une aviation qui serait démocratisée en quelque sorte à l'extrême, puisque chaque individu pourrait disposer d'une voiture volante. Voilà. Donc c'est ce que je disais, il n'est pas certain que les transports traditionnels, bien qu'importants, demeurent stratégiques dans les prochaines décennies, sous l'impact des révolutions dans les nouvelles technologies de télécommunications qui pourraient rendre les transports physiques superflus. Donc on a une ambivalence entre des technologies polluantes et des technologies qui permettent de se substituer à la réalité. Voilà. Donc enfin, au niveau des technologies utopiques, il y a la conquête d'autres astres, donc la création de nouveaux territoires humains. Et pour coloniser le système solaire, en commençant par la Lune et Mars, il sera d'organiser des réseaux de transport efficaces. Donc c'est là un challenge pour créer une civilisation humaine interplanétaire. Donc comment créer des territoires sur d'autres planètes et dans quelle mesure cette ambition sera possible alors que de nombreux individus préféreront créer leur territoire virtuel. Donc ça, c'est un réseau, c'est une image qui m'a un peu amusé, c'est pour ça que je vous la présente. C'est un exemple de carte d'un réseau de transport à l'échelle du système solaire qui est créé sur l'exemple d'une carte de métro. Donc vous voyez, chaque station est une planète ou un satellite pour coloniser, pour se déplacer dans le système solaire. Voilà, donc la question qu'on va aborder maintenant, c'est comment stimuler l'innovation par l'imaginaire et la science-fiction. Il est nécessaire de réfléchir aux conditions d'utilisation des innovations dans les territoires, par l'imaginaire afin que ces dernières soient au service de la créativité et non de l'obscurantisme. Donc, comment utiliser l'imaginaire pour innover alors que certaines technologies utopiques peuvent être utilisées négativement par certains esprits mal intentionnés. Donc je vous propose désormais d'effectuer une théorisation dans la mesure où il faut s'interroger sur l'utilisation de l'imaginaire pour innover. Les entreprises innovantes utilisent de plus en plus cet imaginaire pour stimuler les chercheurs et pour diffuser leurs produits. Donc la science-fiction est devenue progressivement, notamment et principalement aux États-Unis, vous avez pu remarquer que les œuvres que je vous ai présentées en début d'exposé étaient principalement américaines, à part Jules Verne. Donc cet imaginaire est devenu dominant avec Hollywood, etc. Et donc il faut les étudier pour établir des plans stratégiques et des programmes de recherche et développement, mais il faut avant tout penser à filtrer ces discours. Il n'est pas possible d'utiliser les représentations imaginaires sans les analyser, sans réaliser une idéologie, une étude des idées, sans quoi la dimension négative et parfois amorale de certaines scènes, la violence notamment, pourrait vouer à l'échec certains programmes qui pourraient être considérés comme l'extension d'un imaginaire négatif et donc générer une opposition de la part des marchés et des consommateurs. Donc la question c'est comment utiliser la technologie utopique présente dans l'imaginaire. Donc un récit de science-fiction se définit par la présence de technologies utopiques, c'est-à-dire des technologies fictionnelles qui n'existent pas encore au moment de la publication du roman ou de la diffusion d'un film. Ces dernières mobilisent l'attention et l'intérêt des innovateurs qui cherchent à réaliser l'impossible par challenge ou pour être certains de conquérir des marchés guidés par l'imaginaire collectif. Donc j'ai posé une question dans le livre « L'innovation entre science et science-fiction ». Faut-il breveter les technologies utopiques à l'avant-garde des processus d'innovation? Par exemple, si une technologie est développée et est évoquée dans un roman ou une fiction, et qu'elle se réalise quelques décennies après, les innovateurs doivent-ils reverser une somme, un pourcentage de leurs gains aux inventeurs du concept de la technologie utopique? Donc cette question a été posée par Hugo Gernsback dans les années 20 et depuis rien n'est fait, il n'y a pas de brevet pour les technologies imaginaires. Pourtant ce système permettrait de stimuler encore davantage l'imaginaire et permettrait d'inventer le futur d'une manière encore plus dense. Donc là, je vais vous présenter rapidement quelques petits schémas qui permettent de comprendre comment fonctionne une technologie utopique. Donc, il existe un inconscient machinique dans lequel apparaissent des technologies utopiques qui sont ensuite des éléments qui contribuent à la stimulation de l'imaginaire et génère des innovations technologiques. Donc ce schéma illustre de quelle manière les technologies utopiques émergent de l'inconscient machinique avant d'être réinterprétées dans un processus d'innovation technologique. Donc l'exploration de l'inconscient scientifique et machinique fut l'objet de projets, notamment de Gaston Bachelard, qui estimait que le scientifique devait concevoir sa théorie dans une rêverie avant de la formaliser d'un point de vue académique. Il envisageait même une psychanalyse de l'inconscient scientifique. Donc cette démarche fut critiquée par d'autres acteurs qui estimaient cette approche dangereuse car potentiellement destructrice du désir créateur de l'acteur. En revanche, il est vivement conseillé aux scientifiques d'explorer leur inconscient machinique par différentes méthodes de créativité élaborées par des gourous du management ou du marketing pour trouver les technologies utopiques cachées dans leur psychisme. Ce qui nous mène à un deuxième schéma qui montre comment fonctionne l'inconscient par rapport à l'innovation. Donc j'ai déterminé trois types d'inconscient, l'inconscient utopique, l'inconscient technologique et l'inconscient machinique, qui se structure dans un inconscient prophétique qui permet de se représenter le futur, de développer un imaginaire du futur qui est ensuite utilisé dans le processus d'innovation. Ce qui nous mène au troisième schéma qui montre qu'en premier lieu, l'inconscient prophétique, l'inconscient technologique et l'inconscient machinique génèrent un imaginaire science-fictionnel qui est constitué de récits qui intègrent les technologies utopiques. Cet imaginaire est structuré sous la forme d'un utopisme technologique qui génère une idéologie technologique qui elle-même impacte et structure les représentations des innovateurs. Par exemple, un exemple d'idéologie technologique, c'est le transhumanisme qui participe beaucoup à l'innovation et au renouvellement du capitalisme. Voilà. Il est nécessaire donc de stimuler la créativité et l'imaginaire performatif quand il est positif. Face aux imaginaires négatifs, les institutions et les individus doivent effectuer un filtrage cognitif, notamment en réalisant une extraction des technologies utopiques et en les analysant, voire en les positivant. Il faut juste modifier la structure du récit. Depuis quelques années, on a observé que de nombreuses structures anglo-saxonnes comme Microsoft, Intel ou la NASA ont publié des anthologies de science-fiction qui avaient pour but de proposer des visions du futur de l'informatique, des télécommunications, de la conquête spatiale ou de bien d'autres secteurs. Et c'est là-dessus que je vais conclure, en estimant que des structures comme l'Espace Mendès France, par exemple, ou la ville de Poitiers, pourraient organiser des concours de science-fiction au niveau local pour imaginer notamment comment les acteurs locaux considèrent l'avenir, notamment de leur transport. Des concours de science-fiction permettent de développer l'imaginaire, la créativité territoriale. Donc la création de la stimulation de l'imaginaire science-fictionnel peut se faire au niveau local, mais aussi au niveau national ou au niveau international. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et si vous voulez plus d'informations sur ces sujets, vous pouvez lire mon livre qui est sorti récemment. Voilà, merci.
Merci Monsieur Michaud, merci beaucoup. Et sincèrement, votre première partie était tout à fait une prolongation pour les transports. La deuxième partie est tout aussi intéressante, mais je pense qu'elle mériterait encore plus, mais on en parlera tout à l'heure, une extension sur plein d'autres domaines, puisque la science-fiction pourrait s'appliquer aussi à différents domaines que nous explorons en tant que créativité. Mais on en reparle. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Michaud? Et j'ai vu, on m'a dit que dans la salle, il y avait quelqu'un de la cyclerie. Non? Pardon? Oui. Ah bon, pardon. Je croyais que tu me disais qu'elle était arrivée, pardon. Donc, c'était la science-fiction de la cyclerie. Elle n'est pas tout à fait arrivée. Sa télédéportation n'est pas faite. Ok, c'est pas grave, Céline. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, vous qui êtes interpellé par sa science-fiction, je vous laisse quelques minutes simplement vous présenter, puis en même temps, vous réagissez sur cet exposé.
Emery sur Espazos, je suis comédien, écrivain et metteur en scène. Et je suis en train de faire un projet concrètement d'un banquet Gargantua, qui est une réécriture de l'épopée de Gargantua au cours d'un banquet à la façon Renaissance, où on intercalait entre les services des entremets spectacles. Et ce mode-là permet de conjuguer l'épopée carnavalesque de Gargantua à quelque chose de très organique qui est constitutif du mode de vie de la Renaissance et du Moyen-Âge, qui est du vivre commun, du partage et de l'élaboration d'une société en lien. Voilà, et particulièrement à la Renaissance. Et le lien, c'est à plein d'endroits, c'est l'endroit des mondes inconnus, puisque c'est la découverte des Amériques, les voyages de Jacques Cartier, etc. Et puis c'est la redécouverte des civilisations passées, des littératures particulièrement grecques, et latine bien sûr, mais enfin grec qui était un peu délaissé, etc. Donc le lien avec tout le monde, et du coup aussi entre les différentes religions et les façons de voir même au sein même de l'Europe le christianisme, donc la religion qui n'est plus dont on n'accepte plus un gouvernement problématique, disons. Et on est, du coup, dans ce spectacle, c'est envisager cette épopée, mais aussi les perspectives qui vont suivre dans l'œuvre à travers le parcours de Pantagruel, qui est une exploration vers la dive bouteille pour avoir le fin mot de la question d'un des personnages, Panurge, savoir s'il sera cocu, s'il se marie cocu ou pas. Et cette question tout à fait triviale, mais quand même très très essentielle, qui parcourt toute la littérature, va être le motif d'une quête qui rejoint la quête aussi arthurienne, la quête du Graal, etc. Et du coup, le voyage, l'exploration, dans toutes ces dimensions, pas seulement donc du commercial, comme on le sait, depuis les plus antiques civilisations, le bateau sert d'outil commercial, mais d'échange. Mais c'est aussi, encore une fois, la découverte des autres mondes l'exploration, donc, et aussi les utopies. Là, c'est la naissance des utopies. Du coup, pour moi, c'est la dernière partie du spectacle, c'est l'utilisation du rêve comme vecteur de la science, des technologies pour le voyage. Et là, c'est le lien aujourd'hui, de toute façon, en permanence. Donc, pour nous, l'exploration, c'est plus tellement l'Amérique, c'est effectivement Mars, c'est tout ça. Et c'est donc aussi trouver le rapport de naïveté, mais qu'on a dans la science-fiction, c'est-à-dire un rapport à l'imaginaire, à la fois dans sa dimension naïve et en même temps très étudiée, d'outils de transport qui soient qui rendent au moins possible pour l'imaginaire de concevoir ces voyages, ces lieux d'utopie, ces lieux de voyage. Et particulièrement dans Rabelais, puisqu'il s'agira d'une réécriture, mais néanmoins dans Rabelais, il y a l'éloge du Pantagruélion, qui est la plante du chanvre dont Pantagruel aurait découvert les vertus. Pantagruélion qui devient l'éloge de l'industrie humaine, puisque Pantagruel fait... ce chanvre permet de faire du textile, donc tout l'habillage humain, mais aussi les cordages, mais aussi les voilures. Et donc, tout est l'exploration. Et ça met en branle la cohorte des dieux, puisqu'ils se disent un descendant de Pantagruel va inventer un nouveau Pantagruélion qui permettra aux hommes de voyager dans le cosmos, de s'inviter à nos banquets et de coucher avec les déesses, donc d'obtenir l'immortalité. Donc tout ce défi grandiose, quelque part, est déjà... enfin, on le retrouve avec la science-fiction. C'est aussi un enjeu humaniste. Alors, c'est très large de parler d'humanisme, mais c'est aussi cet enjeu qui est comme essentiel à l'homme de se projeter et de ne pas se restreindre à lui-même, de toujours être en connexion avec l'inconnu, avec son incomplétude. Et à l'époque, c'était réunir la Terre, mais on sait bien que ça ne suffit pas. Il y a la communication avec les astres, avec les limites de nos frontières. Et de ce point de vue, on se rend compte, mais si on pense à Rabelais, mais à toute son époque, c'est aussi le lien avec des rêves continus de voler, de... mais avec des motifs différents. Si on parlait de transhumanisme, par exemple, c'est de comment ça, le fait de rendre possible, de se dire c'est possible, d'y arriver peut-être, c'est comme à chaque fois on réenvisage une anthropomorphie, c'est-à-dire une manière de concevoir l'homme et de s'imaginer que l'avenir s'invente aussi ou se découvre en permanence dans la quête des autres frontières. Voilà.
Ok, merci pour ce témoignage. Je vous propose, parce qu'il y a une conférence ensuite d'Iseline à 18h30, ça nous laisse encore un petit peu de temps, mais enfin on sait qu'on... Voilà, le temps de s'installer, tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que Monsieur Mauvilain, mais de toute façon vous avez une interview tout à l'heure, hein, une captation vidéo, puisse venir nous rejoindre pour la dernière intervention à partir d'un cas très concret, c'est-à-dire la gare de Ruffec et l'arrêt TGV en gare de Ruffec. Ce qui n'est pas un cas de figure isolé, puisqu'on a aussi des revendications autour de la gare de Châtellerault, par exemple, ou d'autres gares. Voilà. Donc, à vous, Monsieur Mauvilain. Juste un mot en passant. Quand vous prenez... Enfin, encore que maintenant, avec la nouvelle ligne, je ne sais pas, mais quand on a la ligne TGV vers Orléans, il y a le fameux aérotrain de Bertin, dont on voit les vestiges. Le long de la ligne TGV, l'aérotrain vers Orléans, je ne sais plus trop exactement, au fait, un élément futuriste qui est devenu maintenant un élément patrimonial. Donc on peut voir ce double jeu entre tradition, ce que je pensais à votre intervention à l'instant. En fait, on est aussi dans l'uchronie, par ailleurs. On peut faire de la science-fiction en reculant, d'une certaine façon. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez des idées, on a déjà des contacts, mais pour la table ronde sur l'archéologie, créativité et territoire du mois de janvier, on cherche aussi à voir comment l'ADN, par exemple, a transformé la vision que nous avions des peuples anciens. Par exemple, les Grecs anciens, on sait que grâce à l'ADN aujourd'hui, on peut reproduire la façon dont ces habitants sont arrivés dans les îles grecques. Et c'est tout à fait fabuleux, parce que ce n'est pas tout à fait l'histoire qu'on nous avait racontée. Bien, à vous.
Oui, donc merci Jackie, merci Céline pour l'invitation au titre de l'espace Pierre Mendès France pour parler du TGV et de la gare de Ruffec. La question du maintien du transport ferroviaire en milieu rural se place, enfin cristallise l'ensemble des enjeux relatifs à l'évolution des territoires versus la réponse aux besoins des populations. Et dans ce domaine-là, je m'inscris dans la continuité de ce qui a été présenté par la première intervenante sur l'exemple d'Ayen, parce qu'on voit que sur la question du maintien du transport en milieu rural, il y a plein de paradoxes. Le paradoxe de la SNCF, c'est notamment d'investir dans des modes de transport hors ferroviaire en milieu rural comme à Ayen, on l'a vu, alors qu'elle abandonne de l'autre côté des endroits où elle a des infrastructures, où elle rendait un service et elle s'en désengage. Donc c'est très paradoxal. Je m'inscrirai dans la continuité de ce qu'a dit Mathieu Flonneau en disant que les questions de transport ne sont pas techniques, comme on a voulu nous enfermer dans ce débat technique par rapport à la LGV, en nous disant non, c'est pas possible, le coût du sillon, techniquement, faire revenir un train sur l'ancienne voie, c'est très compliqué. Non, ce ne sont pas des questions techniques, Monsieur Flonneau l'a démontré, ce sont des questions de choix politiques. Donc, moi, je ne vais pas parler ici en tant que scientifique, en tant qu'acteur économique, anthropologue ou d'un point de vue géographique ou géopolitique, mais plutôt sous l'angle d'un citoyen engagé sur le terrain pour défendre effectivement une réponse de service public aux besoins de la population. Mais tout d'abord, Bourdieu disait « le fait divers fait diversion ». Et malheureusement, M. Flonneau l'a dit, l'actualité dramatique récente nous montre que l'interconnexion des transports et leur organisation, leur gestion impactent notre quotidien, et pour le meilleur et pour le pire. Et donc là, j'ai, en tant que professeur du second degré et parent d'élèves, puisque mes enfants prennent le bus tous les jours, une pensée pour les enfants de Mias et du drame qui s'est produit hier. Alors, je parle là aujourd'hui au nom du collectif Maintien TGV Gare de Ruffec, survie du territoire. Et si on a dit survie du territoire, c'est bien parce qu'il y a un enjeu derrière de développement et de maintien d'infrastructures de développement du territoire. Parce que nous avons deux postulats par rapport à notre, action que l'on a développée depuis 2 ans. C'est le premier, il n'y a pas d'égalité sans mobilité. Et l'égalité, c'est d'abord l'égalité entre les territoires et c'est l'égalité de la justice sociale, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir s'émanciper, avoir un avenir, se construire un avenir. Et ça passe bien souvent par la mobilité. Et ça a été dit, ça touche même, vous l'avez dit, hein, en tant qu'artiste, à l'imaginaire et à un moment donné à la projection même de la condition d'humain. Donc il y a une question de dignité derrière cette question de mobilité pour les habitants de la ruralité. Et c'est ça qui se pose aujourd'hui dans le débat. Le deuxième, c'est que la rapidité ne doit pas se faire, ne doit pas se construire au détriment de la ruralité. C'est-à-dire que je regarde mon suivi. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, que nous n'étions pas contre, et j'y reviendrai, hein, la question de la construction de la LGV, mais pas au détriment du service de proximité de la ruralité. Parce que aujourd'hui, il y a aujourd'hui effectivement sur notre territoire un fort sentiment d'abandon qui crée du désespoir. À partir de là, nous avons mis en place un collectif aussi pluraliste que durable depuis 2 ans. Et nous étions dans l'anticipation puisque nous avons commencé à agir avant même la mise en service de la LGV. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes un collectif d'élus de tous horizons républicains, je précise, d'usagers locaux, une représentante de la FNOT, Fédération nationale des usagers des transports ferroviaires, des représentants syndicaux et des syndicalistes cheminots. Et donc cet arc unitaire rassemblé pluraliste est quand même assez particulier et rare pour être souligné durant notamment une période de 3 ans où il y a eu un certain nombre de scrutins électoraux jusqu'au présidentiel, hein, jusqu'à l'année dernière. Et malgré ça, ce rassemblement politique très divers d'élus, d'acteurs politiques a tenu. Ça veut dire que derrière, on partage une même conviction et un même engagement pour le territoire au-delà ensuite de l'ancrage et de l'histoire politique et du cheminement de chacun. Même chose avec les syndicalistes et les syndicalistes cheminots. Un collectif qui a la confiance de la population, puisque nous avons mis à plusieurs reprises plus de 350 personnes dans les actions collectives. 350 personnes dont, il faut le savoir, certains sont dans l'action par délégation. C'est-à-dire que les autres, dans un foyer, une personne vient et en représente 5 ou 10. Donc l'adhésion aux actions, le rassemblement au collectif de citoyens, donc des actions très très fortes, 21 communiqués de presse et donc 21 publications dans la presse, hein, sur 2 ans, avec parfois des pleines pages dans les jours, dans la presse quotidienne régionale, 3 plateaux télé, hein, pour expliquer les enjeux, notamment à un moment de la mise en service de la LGV, parce que France 3 notamment avait souhaité éclairer la question sous différents angles, et donc on avait eu voix au chapitre pour expliquer en gros ce que ça a provoqué sur le territoire. Ensuite, un choix de modalité d'action par rapport à l'ensemble des enjeux qui cristallisent cette question des transports. C'est-à-dire une créativité des actions pour positiver le message. C'est-à-dire que l'important, c'était de dire que nous tenons à l'acquis en matière de transport parce que nous voulons continuer à développer le territoire et non pas un jeu en défense, mais plutôt un vrai projet de construction et de développement du territoire et non pas un positionnement passéiste en disant c'était mieux avant et on veut garder parce que c'était comme ça et ça nous plaisait. Et puis donc des actions destinées à médiatiser notre combat. J'ai présenté en début de cette conférence un certain nombre de photos, hein, en diaporama, et il y avait une photo où nous étions en train de faire un sketch avec le maire de Ruffec, un représentant des usagers et moi-même, pour souhaiter les vœux à Guillaume Pépi en proposant d'aller lui offrir un panier garni et en disant tout ce qu'on voulait mettre dedans et tous nos espoirs de développement et de maintien du service sur ce territoire. Et nous savons que ce sketch était très humoristique et très respectueux aussi de chacun, hein, a fait le tour de la SNCF au niveau du siège national et que Guillaume Pépi l'a vu. Et donc nous savons que ça a fait beaucoup rire et que ça, voilà, ça touche les gens et ça a touché les gens au cœur. 3 audiences au plus haut niveau avec la direction régionale de la SNCF, la présidence de la République lors de l'inauguration de la plateforme technique de la LGV à Ville-Aignan, où nous avons rencontré le conseiller de François Hollande en matière de transport et de développement durable, et jusqu'à il y a un mois et demi, où nous avons été reçus au ministère des Transports et reçus par le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pour exposer effectivement les enjeux de maintien de cette desserte, je dis bien cette desserte TGV, sur le territoire. Et une réponse globalement je vous parlerai après de la SNCF, mais une réponse politique globalement qui disait que nos demandes étaient cohérentes, justifiées, nos propositions étaient concrètes et réalisable, mais en gros, c'était si vous n'avez besoin de rien, on peut vous écouter. Si vous avez besoin de quelque chose, on vous dira comment vous en passer. Voilà. Voilà. C'était ça, en gros, la ligne de force. Donc, ligne de force de notre engagement, en gros, nous demandons la mise en place d'un bouclier rural ferroviaire pour combattre et endiguer un fort sentiment de relégation, d'abandon qui crée du désespoir et qui fragilise le lien social et la vie démocratique locale. Et on l'a vu, notamment par le taux de participation aux différents scrutins électoraux, où en gros, les gens se disent on n'est pas respecté par l'État, par les décideurs, par les politiques, on ne compte pour rien. On sanctionne le politique en n'allant pas voter. Donc ça génère derrière quelque part un désengagement citoyen. Et nous, le collectif, on porte cette question de la dignité citoyenne des gens de la ruralité. Donc c'est très concret, si vous voulez. Au-delà du débat sur la question d'un maintien d'un service public et d'un maintien de transport, il y a la reconnaissance de chacun. En tant que citoyen, un vaut un. Alors l'historique, c'est une bataille qui a plus de 20 ans. Et là, en parlant comme ça, je m'inscris un peu dans les pas du maire de Ruffec, Bernard Charbonneau, qui il y a une vingtaine d'années, en 94, je crois, s'était battu pour la mise en place d'une desserte TGV à Ruffec, puisque c'était le moment de la généralisation dans les années 90 hein, du TGV. Et en gros, le TGV devait passer sur la ligne, mais ne devait pas s'arrêter. Or, c'est là que le maire de Ruffec, avec plus de 500 personnes au plus fort, avait demandé un arrêt TGV à Ruffec et l'avait obtenu. Puis il y a eu de nouveau une volonté de supprimer cet arrêt en 2003. Et là, il a été rétabli assez rapidement. Mais juste un peu d'histoire, au moment de l'acquisition de l'arrêt TGV, hein, c'était une vraie conquête, la SNCF avait demandé un dépôt de garantie de 100 000 francs à l'époque pour anticiper une perte de bénéfices éventuelle. Non seulement elle a remboursé, elle a restitué à la communauté de communes de l'époque les 100 000 francs au bout de 3 mois, mais elle a mis un arrêt supplémentaire le vendredi soir parce qu'il y avait un besoin et ces arrêts étaient rentables. Donc nous avions, et ça c'est un acquis historique, un arrêt quotidien à Ruffec, un arrêt le matin et un retour le soir en direction de Paris, permettant de faire quotidiennement un aller-retour Paris dans les horaires de travail, ce qui permettait à beaucoup de gens de pouvoir aller travailler, de pouvoir aller se former et revenir vivre sur le bassin de vie. C'est pas anodin parce qu'on le sait, un territoire vit et ça a été dit hein, par les interlocuteurs et notamment M. Flonneau tout à l'heure, la question de la mobilité, c'est la question de la création de richesses. Et nous le savons, les gens qui bougent et les gens qui vont vers la capitale ou qui vont vers Bordeaux pour des questions professionnelles, ce sont ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat. Et quand on le revient et qu'on habite sur un territoire et qu'on revient avec ce pouvoir d'achat, on irrigue le territoire de ce pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, la suppression de ces arrêts TGV font qu'à un moment donné, ces personnes, ces classes moyennes, classes supérieures, se détournent du territoire. Et donc, à un moment donné, viennent l'affaiblir. Donc, il y a bien un enjeu d'attractivité. Et le maintien de l'arrêt TGV, ce n'est pas une coquetterie. C'est simplement garder potentiellement la génération de richesses et la génération de maintien d'une activité et d'une économie sur le territoire. Mais j'y reviendrai. Donc, aujourd'hui, la mise en service de la LGV rebat les cartes et casse l'existant. C'est-à-dire que la SNCF a unilatéralement décidé de supprimer les arrêts TGV à Ruffec à partir du 2 juillet, nous disant qu'on mettrait en place une modularité des transports entre le TER et le TGV. Et aujourd'hui, 6 mois après la mise en service de la LGV, on constate que la modularité ne porte pas les effets promis et ne vient pas compenser la qualité de vie et la qualité d'apport que nous avions avec l'arrêt TGV, parce que d'une part, il y a l'imposition de changer de quai à Poitiers, qui est une gare qui est très très mal organisée, avec des escaliers, etc. Et j'y viendrai tout à l'heure par rapport à la typologie des gens qui vivent dans le bassin de vie. Et les horaires ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'en gros, on a perdu de l'amplitude de présence sur Paris, et aujourd'hui, il devient quasiment impossible de partir quotidiennement à Paris pour y travailler, ou se former, ou assister à des conférences, etc., etc. Parce que le temps de présence sur place est trop réduit. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a épluché les grilles horaires, et les grilles horaires d'hiver qui viennent de prendre effet la semaine dernière viennent encore amputer, aux alentours de 16 heures, la possibilité de rentrer de Paris pour revenir sur le territoire à un horaire acceptable. Donc il faut partir beaucoup plus tard ou même rentrer le lendemain. donc un manque de souplesse qui fait qu'à un moment donné, ça devient impossible de se déplacer pour des questions professionnelles. Donc c'est bien le déplacement des travailleurs, des salariés qui est amputé, parce qu'il reste possible d'aller sur Paris pour les loisirs, y passer le week-end, etc. Mais pour y travailler, c'est plus possible. Donc la question de la génération de richesse sur le territoire est posée. Donc voilà, la mise en service de l'EGV casse notre quotidien de proximité. Et donc nous connaissons l'enjeu de l'interconnexion des métropoles à l'échelle européenne, mais elle pouvait se mettre en œuvre en maintenant notre TGV de proximité. On le sait, il faut relier les métropoles, ça a été dit, il y a un phénomène de globalisation, on n'y échappe pas, mais on pouvait très bien maintenir la LGV, enfin, relier très rapidement Bordeaux à Paris, tout en maintenant notre TGV de proximité pour les salariés du territoire. Alors, on a eu des arguments de type économique avec la SNCF, qui a d'ailleurs validé nos propositions techniques, puisqu'on a fait des propositions d'aménagement des sillons, d'aménagement des horaires, pour maintenir un TGV, on va dire, de proximité, qui pourrait desservir Saint-Pierre-des-Corps, Châtellerault, à qui il manque des arrêts, et vous en parliez, qui sont sur le même type de combat que nous, Poitiers, Ruffec, Angoulême et Libourne. Voilà. On a même fait une proposition pour dire que sur l'ancienne voie, on pouvait effectivement avoir un TGV qui circule quotidiennement avec trois équipes de conducteurs. Il y a le matériel est amorti, la voie est amortie, donc ça ne coûte pas cher. Et nous avons fait une estimation du maintien de l'infrastructure de la voie de chemin de fer avec les cheminots de Ruffec. Ceci dit en passant, il y a une question d'emploi local aussi. Cheminots à Ruffec, la gare, c'est une vingtaine d'emplois. Bon. Donc on sait que la desserte TGV, derrière, elle conditionne le maintien des emplois de cheminots sur place. Donc on a fait des projections. Il est tout à fait possible d'avoir un TGV qui fasse l'aller-retour Paris-Angoulême tous les jours, qui a une double rame, qui s'arrête à Poitiers, une rame partant sur La Rochelle, une rame partant sur Angoulême, qui stationne la nuit et qui repart le lendemain pour être à un horaire entre 9h et 10h à Paris. C'est tout à fait réalisable. Il n'y a aucun problème de connexion. Alors, donc nous disions que notre arrêt TGV au quotidien à Ruffec, sur toutes ces gardes que je viens de citer, est rentable et permet à un moment donné d'amortir le déficit prévisible de la LGV, puisque la SNCF a d'ores et déjà budgétisé 150 millions d'euros par an de déficit, d'accord, alors qu'il y a eu entre 7 et 9 milliards d'investissements pour construire cette ligne. 10 millions, alors je me suis trompé, 1 million d'euros, c'est le maintien du TGV dont on parle, que j'ai évoqué, du TGV de proximité, ça coûte 1 million d'euros par an. Donc pour donner un peu les masses, j'ai mis 10 millions, mais je me suis trompé, 1 million d'euros par an pour maintenir ce TGV de proximité contre 150 millions d'euros de déficit de la LGV et 9 milliards, entre 7 et 9 milliards d'investissements. Et je viendrai après sur la question du financement de la LGV, parce que les collectivités ont financé, j'y reviendrai. Donc nous avons aujourd'hui un territoire, le bassin de vie du Ruffécois, qui est fragilisé par la métropolisation et qui cumule les handicaps induits par les choix politiques depuis 40 ans. Les choix politiques dont a parlé M. Flonneau, notamment. Donc là, le bassin de vie du Ruffécois, c'est le cœur de l'ancienne Poitou-Charentes. Et c'est en fait un point aveugle aux confins de trois départements, le Nord-Charentes, le Sud-Vienne et le Sud-de-Sèvres, puisque, en gros, globalement, chaque entité administrative gère un département, et nous, notre zone de vie, qui est aux confins, elle passe sous les écrans radars. En revanche, nous, on sait, il y a 100 000 personnes. La zone de chalandise, c'est 100 000 personnes qui passent sous l'écran radar de l'administration. Donc il y a aujourd'hui une fragilisation et une désertification liée au démantèlement des services publics, notamment en matière d'éducation. Les collèges sont fragilisés et ont failli fermer, mais il y a eu une mobilisation citoyenne là, sur ces questions-là. Il y a eu des fermetures de classes, des fermetures de bureaux de poste, des fermetures de trésorerie. On devient un désert médical et une remise en cause de l'hôpital public. Donc c'est aujourd'hui un territoire qui cristallise les handicaps, qui cristallise liés à des choix politiques pour des considérations économiques. Bon. Donc c'est un territoire qui a été contourné lors de la construction de l'autoroute A10 dans les années 70-80 et qui assume aujourd'hui les risques induits par la route. Sur la Nationale 10, et M. Flonneau en parlait, la Nationale 10 qui n'a jamais été terminée. Donc des morts au carrefour plan, il y a encore eu des décès cette semaine, après un accident à un carrefour plan entre Ruffec et Angoulême. Donc route jamais terminée, puisqu'il n'y a pas les ponts qui permettent d'éviter ces carrefours. La question de la pollution, la question de l'entretien, où le conseil départemental doit faire face à la dégradation des routes, puisqu'on est sur un taux de fréquentation des poids lourds qui est entre 10 000 et 20 000 véhicules jour, sachant qu'un passage de poids lourds équivaut à 1 000 passages de voitures. sur la route. Donc en fait, en gros, la route est en constante évolution, en constante dégradation et en constant réparation. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est aussi détournement, c'est aussi circulation sur une seule voie, donc des accidents, des face-à-face, etc., etc. Donc c'est toute l'année, la route est en travaux, elle n'a jamais été terminée puisqu'il y a beaucoup de carrefours plans qui posent des problèmes. Ces menaces et ces points de handicap sont aujourd'hui accentués par la baisse des dotations de l'État en vis-à-vis des collectivités territoriales, notamment du conseil départemental qui doit faire des choix et qui ne peut pas investir à la hauteur des besoins pour maintenir l'infrastructure. Et des menaces qui pèsent aussi sur l'avenir du contrat de plan État-Région, puisqu'aujourd'hui, il y a un contrat de plan État-Région qui court jusqu'en 2020, mais ensuite, on ne sait pas. Et le gouvernement n'a pas dit qu'il reconduirait les projets de contrat État-Région. Donc, voilà, on est dans une forme d'expectative. En conclusion, on voit apparaître une forme de paupérisation grandissante, parce que si en France, un actif sur quatre n'a plus accédé à un travail à un moment donné pour des raisons liées au transport, chez nous, c'est beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup plus, et notamment les jeunes, qui disent que ben oui, ils ont raté des emplois, etc., parce que pas de voiture, problème pour financer le permis, qui coûte cher et qui est compliqué, et absence de train ou mauvais cadencement des TER, et donc impossibilité de caler les transports sur les horaires de travail, donc on ne peut pas aller travailler, donc les gens se retrouvent enquistés dans leur territoire. Si le budget, la moyenne de la part des transports dans le budget des foyers en France est de 13%, nous, on a fait une estimation, alors c'est pas scientifique, mais globalement, et moi le premier, qui me déplace régulièrement entre Angoulême et Poitiers, c'est-à-dire que c'est des grandes distances de 50, 60, 70 km, ça veut dire 1000 km par semaine, globalement, quand on est sur la route. Globalement, on estime au coût des transports dans la part du foyer entre 20 et 40 % pour ceux qui roulent beaucoup. Voilà. Et ce qui veut dire maintien d'un véhicule, etc., etc. Donc, conséquence. Nous avons aujourd'hui un territoire qui devient peu à peu une zone blanche et qui subit de plein fouet la spirale de l'enclavement et de l'isolement. Donc, d'où, par l'intermédiaire du collectif que nous animons, de manière pluraliste, nous sommes un territoire qui lutte aujourd'hui pour sa survie. C'est pour ça que nous avons dit collectif de maintien TGV et quart de RUFEC pour la question des emplois et des services et survie du territoire, parce que les choses sont intimement liées. Donc, un territoire qui lutte pour sa survie et qui a des atouts. Aujourd'hui, on le voit, après 10 ans de crise économique, il y a des amorces de relance, et notamment des amorces de relance avec l'Espagne, le Sud qui se redéveloppe, etc., etc. Et donc, nous ne voulons pas être sur le bord de la voie par rapport à la relance économique. Et nous avons des atouts. Nous avons une entreprise multinationale, la SNRI, une des plus grandes entreprises régionales, Poitou-Charentes, une base logistique de Leclerc d'Ascachap, qui est un des plus gros employeurs privés du département, un tissu de PME, alors je cite Fromaker, il y a aussi l'entreprise Stileco qui irrigue tout le sud-ouest en matière de magasins de sport et de magasins de vêtements, et beaucoup, beaucoup d'acteurs, un monde d'acteurs du tourisme rural, créateurs de richesses, avec les chambres d'hôtes, des clubs équestres, des bases de canoë-kayak, un réseau d'artisans qui vivent notamment du bâtiment, de la construction et des résidences secondaires. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi la question sur notre territoire du lien générationnel. Nous avons beaucoup de personnes âgées qui ont du pouvoir d'achat, mais qui ont besoin de se soigner, qui ont besoin de se déplacer pour aller à l'hôpital sur Bordeaux, voir un spécialiste à Paris, aller chercher les petits-enfants, donc le lien générationnel pendant les vacances scolaires, le week-end, et qui veut, quand il y avait l'arrêt TGV, monter dans le train à Ruffec et descendre à Paris ou à Bordeaux sans changement. Vous pouvez prendre des valises, parce qu'on sait que se promener quand on est âgé avec des valises, avec des sacs, avec des petits-enfants à la main, etc., quand il faut changer de train, attendre le risque, etc. Donc on avait un cadre protecteur qui permettait ce lien générationnel. Nous avons fait une estimation de la fréquentation des arrêts TGV, de l'utilisation du TGV. La moyenne sur l'année, c'est 36 montées et descentes à chaque arrêt, avec des pics d'utilisation au moment des vacances scolaires, des week-ends fériés et des grandes manifestations nationales, spectacles à Bercy. Je ne dirais pas de Johnny à Bercy, parce que malheureusement, il ne se produira plus. Mais salon de l'agriculture, salon du camping-car, salon du loisir, etc., etc., les grands spectacles, comédie musicale, etc. Donc on voyait là des pics de fréquentation où là, les gens venaient utiliser le train parce que confort, parce que proximité, parce que sécurité. Pour la petite anecdote, lorsque nous avons été reçus au ministère des Transports, il y a un mois et demi, nous avons hésité à prendre le train. Et comme nous n'étions pas sûrs d'avoir la correspondance TER-TGV à Poitiers, nous ne l'avons pas pris. Nous sommes allés en voiture. Nous étions trois. c'est le paradoxe, nous y sommes allés en voiture. En fait, la correspondance TER-TGV s'est bien faite, mais le TGV a eu un incident, a eu du retard. Et donc, les personnes qui étaient dans le TGV et qui devaient nous rejoindre sont arrivées avec une heure et demie de retard. Si nous avions pris le TGV, jamais nous n'aurions été reçus au ministère des Transports. C'est quand même le paradoxe. Donc, nous y sommes montés en voiture. Pour vous dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu là aussi de sérénité et de projection des jeunes hors du territoire. Aujourd'hui, pour la première fois, et mes enfants, les premiers, disent « mais nous, on veut aller à l'école à tel endroit, on veut aller faire tel type d'études, et puis on n'a pas envie de revenir vivre ici, hein, parce qu'ici, de toute façon, il n'y a plus rien ». Et donc aujourd'hui, on a pour la première fois, moi j'y suis né sur ce territoire, on a des jeunes qui ont intégré le fait qu'ils ne vivront plus ici. Parce que le niveau de service, la question du haut débit a été posée, il y a un enjeu énorme d'investissement des collectivités territoriales sur le haut débit. Donc aujourd'hui, la perte du TGV, qui est quand même un lien et qui est quand même une facilité de transport, une rapidité que nous sommes en train de perdre. Donc pour la première fois depuis 40 ans, les jeunes ne se projettent plus ici sur ce territoire. C'est quand même dramatique. Et puis la question de l'immobilier, de l'attractivité du territoire. Je pense notamment à nos amis anglais qui, on va le dire, ont sauvé des villages il y a une quinzaine d'années. Parce qu'ils cherchaient le foncier à bas coût par rapport à l'Angleterre, et ils savaient qu'en France, ils avaient un bon niveau de service, de soins, d'éducation, de transport, et donc ils pouvaient passer plusieurs semaines ici et rentrer en une journée à Londres ou en Angleterre avec le TGV, l'aéroport de Poitiers, vous en parliez, et je l'ai utilisé pour aller en Angleterre, et c'était un vrai plus, c'était une fenêtre ouverte sur l'Europe, et donc tous ces éléments-là permettaient une attractivité, on va dire, européenne de nos territoires. Sans le TGV, sans l'aéroport de Poitiers, parce que c'est la même logique, aujourd'hui, ce sont des territoires qui vont s'enfoncer et nos partenaires, qui étaient des acteurs importants de la dynamisation de nos territoires, ne viendront plus ici et on commence à voir apparaître des maisons à vendre. Alors, juste et pour conclure, avant de... Je vais mettre ça en petit. Je ne voulais pas le fermer. Voilà, juste pour dire qu'à un moment donné, quand même, il y a un... Je voulais ouvrir celui-ci. Il y a quand même quelque chose qui est une forme d'incohérence par rapport à la question du projet de la LGV. Alors là, vous avez l'exemple d'un tract que nous avons distribué, qui a été un des premiers que nous avons distribué il y a 2 ans. Nous avons développé notre argumentation sur 4 points. La question du financement. Il faut quand même savoir que les collectivités territoriales de Charente ont financé la LGV, puisque c'est un partenariat public privé, à hauteur de 40 millions d'euros, 42 millions d'euros. Je cite le département Charente, le Grand Angoulême, comité de communes du Grand Angoulême, la ville d'Angoulême et la communauté de communes de Cognac. 42 millions d'euros, c'est quand même pas une paille dans un budget départemental qui est à hauteur de 300 millions d'euros. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un vrai effort des collectivités. Ça se traduit par une diminution de l'offre de services pour les usagers. C'est-à-dire qu'on nous fait payer, c'est la triple peine. On nous fait payer, voilà, on nous enlève un acquis et on nous met dans une situation intenable en termes de modularité des transports. Et c'est à nous d'en assumer la responsabilité individuellement avec nos véhicules. Et ça nous coûte très cher en matière de transport. C'est la triple peine. Donc ça, c'est quand même un enjeu fondamental. C'est la première fois que dans la construction des territoires, depuis les 30 Glorieuses, ça a été évoqué par rapport à la voiture, où là, on a des projets qui viennent pomper, ponctionner, siphonner les finances publiques, siphonner nos impôts pour nous enlever et nous balancer 40 ans en arrière. Parce que globalement, aujourd'hui, il devient très difficile de monter à Paris et on se retrouve dans des modes de transport qui nous font un recul de 40 ans, entre 30 et 40 ans, avec quand il y avait l'intercorail, l'intercité, où il fallait 5 heures pour monter à Paris à partir de Ruffec, etc., etc. Donc, en fait, c'est un petit peu retour vers le passé, quoi, hein, et non pas vers le futur. Donc, le développement. Nous avons un bassin de vie qui est une zone rurale et qui a une vraie potentialité. Il y avait la question de l'égalité des territoires, je l'ai dit, et de la cohésion sociale. Mais je voulais venir sur cet aspect de financement parce que c'est quand même assez édifiant et c'est un élément que nous souhaitons mettre en avant parce que là, ça veut dire qu'il y a une rupture du contrat social. Aujourd'hui, entre les collectivités territoriales et les citoyens et les acteurs économiques, notamment la SNCF, mais qui est pilotée, qui est une entreprise d'État, par le gouvernement, et la réponse du gouvernement n'a pas été à la hauteur. Alors, je vais très vite sur nos propositions, ce qui a bien embêté les différents responsables que nous avons vus, c'est que au-delà de notre contestation et du maintien, de la volonté de maintenir notre service, nous avons fait des propositions. Et nos propositions, elles concernent aussi bien le TER que le TGV, qui sont les deux facettes d'un même problème. On n'a jamais dit qu'on voulait du tout TGV à Ruffec. C'est pas possible. On veut pas du TGV toutes les deux heures pour monter à Paris. On veut le maintien de l'arrêt du matin et du retour le soir pour pouvoir aller travailler sur Paris. Mais on veut la multiplication et l'amélioration des dessertes TER qui nous permettent d'aller sur Bordeaux ou Poitiers très rapidement pour ensuite prendre un TGV qui nous permettrait d'aller sur Paris. Donc aujourd'hui, le paradoxe, alors là, il y a plusieurs... on avait dit donc le maintien de l'existant en matière d'arrêt TGV, de desserte, le travail sur le cadencement des TER et des TGV avec changement à Poitiers, et un travail sur l'amplitude de la desserte TER pour les étudiants notamment, pour les salariés qui vont travailler sur les métropoles régionales, avec notamment des TER rapides permettant d'aller très rapidement sur Angoulême et sur Poitiers, et des TER omnibus depuis la gare de Ruffec. Parce que quand on regarde bien les horaires, et je terminerai par rapport à ça, on ne peut plus rentrer de Poitiers, par exemple, au-delà de 19h. C'est-à-dire que si on a des horaires de travail sur Poitiers qui dépassent les 19h, on ne peut plus rentrer à Ruffec. On ne peut plus revenir dans sa région. Donc on pense qu'on peut avoir des TER qui partent à 20h, 21h et qui permettent d'avoir des horaires pleins de travail. Le week-end, plus de TER, pas de TER pour aller sur Angoulême ou sur Poitiers et donc ensuite se connecter sur Paris. Voilà. Le premier TER... le dimanche, il est à 16h, notamment je pense aux élèves internes. Ça veut dire que pour rentrer au lycée sur Angoulême ou sur Poitiers, il faudrait qu'ils partent de chez eux à 14h30, qu'ils viennent prendre le TER pour partir. Quel lycéen va faire ça quand il est arrivé chez lui le vendredi soir très tard ou voire le samedi matin? Repartir le dimanche, donc il nous faut des TER, une amplitude de cadencement des TER beaucoup plus large sur Ruffec. Donc on a toujours maintenu, nous, et donc le week-end. Et je reviens sur ce que disait la première intervenante. Aujourd'hui, la plus grande plateforme de partage d'autopartage sur le Nord-Charente, c'est la gare de Ruffec. Et les cheminots nous le disent. Nous, on est là dans la gare, on est ouvert. Et donc, on voit des gens qui utilisent les sanitaires, qui utilisent le hall de gare parce qu'il est chauffé et qui se donnent rendez-vous pour se véhiculer en voiture. Et nous, on n'a pas de train qui passe, alors qu'on pourrait en avoir. Enfin, c'est quand même un paradoxe. Voilà, c'est quand même un paradoxe, avec tous les risques afférents au déplacement en voiture. Donc... voilà, on a toujours construit notre argumentation sur les deux facettes, le TGV, mais on n'est pas sur le tout TGV. Et là, je réponds à la ministre Borne qui disait sur France Inter avant-hier que les gens voulaient du TGV, c'était terminé le tout TGV. Il n'y a pas de raison qu'on enlève le TGV là où il s'arrêtait. La France est un pays riche qui peut maintenir son lien social, maintenir la cohésion sociale en maintenant des trains qui permettent aux travailleurs d'aller loin très rapidement et de rentrer chez eux le soir, tout en maintenant et en irriguant mieux la desserte TER. Donc là, c'est la région qui gère les TER. Donc nous sommes en discussion avec la région Nouvelle-Aquitaine parce que malheureusement, même la région a communiqué énormément là-dessus en disant l'année dernière, la LGV et les TER, la Nouvelle-Aquitaine accélère. Oui, les Bordelais ont accéléré, mais la Nouvelle-Aquitaine ne se résume pas aux Bordelais. Donc nous demandons à ce qu'il y ait un équilibre territorial. Et puis j'aurais pu vous présenter, mais vous le verrez, je vous les ferai passer, nos analyses économiques, sociales géopolitiques s'articulent sur l'interconnexion des trois SCOT des pays que je vous ai présentés, du cœur de Charente, du sud de Sèvres, sud Vienne et nord Charente. Donc on a fait une étude avec les points et les atouts économiques. Et puis très rapidement, vous voyez très bien l'enjeu pour le territoire que je représente ici aujourd'hui, le nord Charente, l'enjeu de la répartition des richesses. Voilà. Plus la carte est foncée, plus les richesses sont accumulées, plus elle est claire, plus les richesses ont déserté le territoire. Et vous voyez bien aujourd'hui l'enjeu de la fracture territoriale, donc de la fracture sociale qu'on a à résoudre. Et la mobilité, je reviens, est un enjeu structurant de l'égalité entre les territoires et du progrès social. Je vous remercie.
Merci, monsieur Mauvilain. Merci beaucoup. De conclure d'une part sur finalement le problème de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de la mobiquité, comme disent certains maintenant, avec les réseaux sociaux. Donc, effectivement, moi, je pense d'ailleurs aux travaux d'un géographe qui s'appelle Christophe Guilly, qui pose de façon assez remarquable ces problèmes de fracture territoriale en France. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Sinon, oui. Alors, je vous propose de donner votre nom juste pour l'enregistrement.
Olivier Descroix, je travaille à la communauté de Grand Poitiers, communauté urbaine, et j'entends votre action militante et je voudrais vous dire que même un élu comme le président de la communauté urbaine Grand Poitiers, déplore d'être écouté mais pas entendu, comme vous. Il a les mêmes difficultés à se faire entendre, à obtenir de la concertation, des échanges fructueux et qui aboutissent avec la région ou avec l'État. Le service d'hiver nous a fait découvrir des arrêts qui sont supprimés, des TER qui passent et qui ne s'arrêtent plus alors qu'ils s'arrêtaient. Voilà. Et c'est sans concertation, on se retrouve face à ces phénomènes, c'est abominable. Alors il a eu les moyens, il y a quelques années, de défendre la ville de Poitiers, la glo de Poitiers, et d'obtenir qu'elle soit desservie par le TGV et qu'elle ait les débranchements depuis la nouvelle ligne vers la gare de Poitiers. Mais c'est un combat quotidien pour conserver les dessertes, pour ne pas perdre un TGV contre un Ouigo qui n'a pas le même service, etc. Voilà. Et... j'espère que vous arriverez à trouver un moyen de vous faire entendre quand vous êtes seulement écouté. Vous me direz la recette.
Écoutez. Oui, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, hein, je partage ce que vous dites, mais nous refusons la résignation. C'est-à-dire que nous on croit, non, mais on croit dans la force du politique et dans le pouvoir du politique. Et donc on ne renonce pas et on veut avec la force de nos arguments, et vous voyez encore aujourd'hui là, les photos d'un des 8 blocages que nous avons réalisés en 2 ans du TGV, avec bien sûr l'aide technique des cheminots qui ont assuré notre sécurité. On n'a pas fait n'importe quoi parce qu'on a on a géré la sécurité de bout en bout, mais on voulait montrer que le TGV s'arrête en Ruffec, qu'on ne voulait pas le laisser repartir. Voilà. On ne l'arrêtait pas sur le trajet, hein, bien sûr. Bon, mais pour vous dire qu'on était, nous, les précurseurs de cette bataille du rail dans le département de la Charente. Et depuis 10 jours, nous sommes rejoints par les élus du Grand Angoulême et d'Angoulême et de Cognac qui ont encore manifesté ce matin, et nous y étions la semaine dernière avec eux. Alors le paradoxe, c'est qu'ils avaient signé un courrier de soutien à notre action il y a 2 ans. En disant qu'ils étaient très soucieux du maintien des arrêts TGV à Ruffec. Mais nous, on leur disait, mettez-vous dans l'action avec nous, parce qu'il y a 2 gares TGV en Charente, c'est Ruffec et Angoulême. Ils commencent par la première, qui est la plus petite, pour supprimer le TGV. Et puis, ne croyez pas que le nombre de TGV sera maintenu dès l'instant où la LGV sera mise en service pour les arrêts à Angoulême. Et donc, déjà, par rapport à la convention qui avait été signée entre la SNCF et Angoulême, il manquait 6 arrêts. Et la SNCF vient d'en supprimer encore 2 sur Angoulême. Mais nous, on le voyait venir. Et donc aujourd'hui, la bataille se départementalise. Et donc nous, on appelle à l'unité parce qu'il n'y a que dans le rassemblement de l'ensemble des élus et des citoyens que l'on peut à un moment donné dire au ministère et à la SNCF, vous devez répondre aux besoins de la population. C'est ça votre boulot, c'est ça l'enjeu. Et non pas garantir des intérêts économiques à très court terme pour des retraits, des retours sur investissement et des bénéfices très immédiats pour l'ISEA, pour Vinci. Et parce que globalement, le réseau ferroviaire et les trains, c'est nous qui les avons payés. C'était un service public, ça a été financé avec nos impôts. Aujourd'hui, c'est les partenariats publics-privés viennent privatiser ça et nous confisquer nos niveaux de service. Et ça a été la même mécanique sur les autoroutes.
Bien. Ce que je vous propose, c'est que... Merci, en tous les cas. Merci à tous d'avoir participé. On a une captation vidéo à faire avec vous, donc on va la faire là. Ce que je vous propose, si vous voulez continuer à échanger, c'est que vous puissiez monter jusqu'à là-haut, à la cafétéria, où vous pourrez échanger entre vous. Et de toute façon... on vous enverra les éléments